On enregistre.
Et salut à tous et bienvenue pour cette 87e édition du podcast elbakine.net. Autour de cette table, on est trois ce soir et on commence à tout seigneur tout honneur par l'envahisseur Nadir du jour, Gilles Ossène.
Bonsoir à tous.
Tu vas jouer un peu le rôle du méchant Gilo aujourd'hui, mais pas que. Et on a également Gilles Danas. Hello Gilles Danas.
Bonsoir.
Danas qui va littéralement jouer les remparts de Dross Delmock. Rien de moins. Et je suis Giggs, pour vous servir.
Et tu seras la source.
Écoute, c'est très gentil, j'allais dire que j'allais être un péon, un pécor sur les remparts qui se fait tuer par une flèche, par une inadvertance, tu vois. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un auteur dont les exploits de ses héros résonnent à travers les couloirs de nos esprits et de nos souvenirs, d'un conteur dont l'écho des batailles forge les légendes de notre imaginaire, d'un auteur qui vous aura peut-être conduit, vous, chers auditeurs, à la fantasy, ou tout simplement contribué à vous faire aimer davantage le genre, ou pas. Quels que soient les avis que l'on puisse avoir sur lui, on est là pour en parler dans ce numéro. Donc sortez Snaga, sortez les épées du fourreau, tous au rempart, il est temps de parler de David Gemmell. Alors, David Gemmell, sa vie, son œuvre, son parcours, on va commencer un petit peu par quelques repères biographiques pour s'y retrouver. Je te laisse la parole, Gétanas.
Alors, David Gemmell est un écrivain anglais qui est né le 1er août 1848 à Londres et qui est malheureusement décédé le 28 juillet 2006 des suites des complications dues à un quadruple pontage coronarien. Bah déjà, il faut voir que chaque interview qu'il donne à filmer, il fume, donc bon. Il a dans sa vie été journalier, la fameuse interlude « videur de boîte de nuit à Soho » qu'on entend dans chaque présentation, même si ça n'a duré qu'un court moment de sa vie. Il a aussi et surtout été rédacteur en chef et journaliste indépendant pour différents journaux anglais, par exemple « Daily Mirror » ou le « Folkestone Herald » duquel il sera renvoyé pour avoir, on va dire, dépeint ses collègues de travail dans le roman « Waylander ». Et donc, depuis 1986, il est écrivain à plein temps. Il a publié 33 romans au dernier décompte. Donc, le dernier, c'est La Chute des Rois, qui clôt le cycle de Troie, qui a été terminé par sa femme Stella Gemmell après sa mort, d'après les notes qu'il avait laissées et les chapitres déjà commencés. Donc, une vie un peu atypique, on peut dire, et notamment qui est très tournée vers l'âpreté, la violence, et ça se ressent en fait dans ses textes.
Ouais, David Gemmell qui donc effectivement nous a quittés beaucoup trop tôt. Tu l'as dit, hein, 57 ans, c'est ça?
Oui.
4 jours, 3-4 jours avant son 58e anniversaire, je me rappelle de ça. Bon, effectivement, comme tu le dis, ouais, si vous prenez des interviews de David Gemmell. Je vais essayer de pas dire David Gemmell, hein, parce que en préparant ce podcast, vous ne l'aurez pas entendu, mais je me suis fait réprimander plusieurs fois et, parce que je n'arrêtais pas de dire Gemmell. Donc, si ma langue fourche, je vais essayer de faire attention. Donc ouais, non, c'était un très grand fumeur. Il avait une très forte tension artérielle. C'était un amateur de vodka et de chocolat. Il le disait lui-même. Malheureusement, il nous a quittés tragiquement trop tôt.
Et pour parachever la légende, on notera que David Gemmell est mort sur son bureau d'écriture.
Ouais, voilà qui effectivement parachève la légende, comme tu dis. Donc, first thing first, qu'est-ce qu'il a écrit, David Gemmell? Quel type de roman, pour les personnes qui n'auraient jamais lu David Gemmell, quel est son style? Pour moi, c'est d'abord, en fait, et avant tout, Gemmell, un héritier de la fantasy héroïque, enfin, l'héroïque fantasy, voire même la Sword and Sorcery, à la Fritz Leiber, à la Robert Howard. D'ailleurs, quand tu écoutes, quand tu lis des références, enfin quand tu lis des interviews de Gemmell, il te parle pratiquement que des auteurs antérieurs aux années 70. Donc il va pas plus loin de mémoire que Moorcock. Et il parle de Tolkien également, mais effectivement, moi je trouve qu'on sent énormément de Howard et de Leiber dans ses écrits. Et ce qui va définir avant tout Gemmell, pour moi, ça va être ses personnages, sa galerie de personnages. D'ailleurs, j'ai souvent le sentiment que les gens le lisent et l'apprécient principalement pour ça, en fait. Il sait construire des personnages, il sait les faire interagir les uns avec les autres. D'ailleurs, si vous êtes auteur amateur, apprenti auteur, à mon sens, c'est une bonne idée de lire ou relire Gemmell parce que
simplement pour voir en fait comment le traitement de ces personnages et comment le traitement de personnages prend le pas sur le reste et peut éclipser justement un background qui serait peut-être un peu moins fouillé. Finalement, c'est pas si dérangeant tant qu'on a les personnages. Règle d'airain de l'écriture, n'est-ce pas ? On parle également de Gemmell comme d'un formidable conteur, au sens où ses histoires sont avant tout divertissantes. Vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord. Et oui, ça va bien avec pas mal de clichés. Vous aurez des gentils héros au grand cœur, des méchants, la lutte contre le mal, et à la fin, un siège, parce que David Gemmell adore les sièges. Je parle pas des sièges, le fauteuil, je parle des sièges, une armée qui va essayer de prendre un château, une forteresse et tout un tas de déclinaisons de ce genre. C'est une des particularités de ces récits qui sont à rebours en fait d'une fantasy de type high fantasy, parce que il y a pas de race déjà concrètement. Vous avez pas le starter pack de la fantasy classique, vous ne trouverez pas chez David Gemmell d'orques ou d'elfes. Vous ne trouverez pas également de jeunes paysans appelés à sauver le monde. Je sais pas s'il y a des dragons d'air, je suis même pas sûr. Non, Gilles Tanas me fait signe que non, il n'y a pas de dragon chez David Gemmell, donc voilà. Ça, c'est des éléments qui sont typiques, caractéristiques de l'auteur. Et quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est que ces héros, c'est souvent des vieux briscards, quoi. Ils ont 40 ans, 50 ans, voire plus. Ils ont des mauvais genoux, ils ont le dos en vrac, un peu comme nous, en fait.
Donc... N'exagérons pas.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable chez Gemmell, c'est que t'as pas effectivement l'adolescent de 15 ans chassé de son village. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et qu'il n'y a pas de coming of age chez Gemmell. Donc on se rappellera notamment que Drus, pour ce qui est de tout ce qui va concerner le personnage, donc c'est un héros qui, quand on le rencontre, il est âgé, il a perdu sa femme. Donc il y a des réflexions qui sont qui sont plutôt bienvenues sur le deuil de sa femme, sur la disparition d'une époque, le fait qu'ils aient pas eu d'enfant avec sa femme. Donc il y a toute cette réflexion là. Plus globalement, sur le sens qu'il a donné à son existence à lui. Est-ce que finalement il n'était qu'une machine à tuer comme son grand-père, on va en parler. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, moi, j'apprécie chez Gemmell. Je ne sais pas quel est votre... Je vois Gilles Tanas très concentré, je vois Gilles Ossène.
Oui, alors deux petites réflexions de mon côté, une personnelle et une où je me ferai le héros de Aka qui n'est pas avec nous ce soir. Donc sur les personnages, à mon sens, tu disais les gentils héros au grand cœur. Oui, c'est vrai, enfin... Plus les romans avancent en général, je veux dire, quand je dis les romans, c'est pas les romans au fil de sa carrière, c'est dans chaque roman. Et plus tu te rends compte qu'effectivement, ils ont un bon fond. Mais Drus, au départ, dans mon souvenir, quand tu le rencontres, c'est pas spécialement le mec ultra sympathique. Voilà, tu te dis, bon.
Ah, mais il l'est jamais.
Il veut pas y aller, en fait, déjà.
Oui. Drus, il veut jamais rien faire de ce qu'il est censé faire dans l'histoire.
Oui, oui. C'est pour ça que tu vois, finalement, oui, il a un grand cœur parce qu'il finit par agir, mais c'est pour reprendre ton parallèle avec le jeune paysan ou le jeune élu, c'est pas non plus aussi évident, je trouve. Et la seconde chose que je voulais noter, donc en faisant l'interprète d'Aka, c'est que il nous est remarqué qu'on peut tout de suite faire remarquer qu'il y a en gros deux types de romans chez l'auteur. C'est les romans prenant un cadre historique, comme le siège de Troie dans Troie, évidemment, ou les conquêtes d'Alexandre, et puis les autres romans, et si on retrouve une emphase directe sur les personnages, finalement, ça, c'est quelque chose qui se prête particulièrement au roman qui évolue dans un contexte connu, et le point faible, c'est ce côté, effectivement, background, mais que l'imaginaire collectif supplante, finalement, à force, on a quand même des repères qui se créent. Et même sans s'y connaître vraiment, tout le monde connaît par exemple la guerre de Troie ou les Spartiates pour ce qui est du volet antique. Et évidemment, la guerre aussi occupe une grande partie de ses écrits, bien plus que la quête, que la thématique de la quête ou la politique au sens manigance, manœuvre, intrigue de cour, etc. Ou même la magie, même si la magie est présente chez Gemmell.
Ouais, la magie est présente chez Gemmell, mais elle n'est pas vraiment utilisée comme chez d'autres auteurs de fantasy plus classiques, en tout cas.
Oui,
j'ai
oui,
jamais l'impression que chez Gemmell, la magie est utilisée comme un ressort.
Elle coule de source, mais.
Alors, pour,
il fallait la faire.
Il fallait que tu la fasses, effectivement, cette blague. Si vous êtes novice de David Gemmell, il faut savoir que la source, c'est un peu comme, corrigez-moi si je me trompe, la force dans Star Wars. J'ai Thanos qui.
Je dirais que c'est plus compliqué que ça. Oui, mais il y a beaucoup plus un fond chrétien dedans, en fait. De la source, ils doivent bien se comporter, mais ne pas être violent, etc. Et...
Ouais, voilà. Il y a les tables de la loi dans la source.
Alors après, on reviendra dessus, je pense, parce que le world building de Gemmell est assez particulier. Moi, je voudrais rebondir à tout ça en citant Jacqueline Nebout. Quand elle a remis le prix Tour Eiffel à David Gemmell pour Légende en 2002, a dit dans une interview qu'elle a donnée à Bragelonne, que vous pouvez retrouver sur YouTube, que dans les ouvrages de David Gemmell, je cite, « on honore le courage, la vertu, tout ce qui passait pour ringard et qui retrouve un peu de couleur ». J'irais même encore plus loin que pour moi, David Gemmell, c'est ça, c'est l'honneur, mais c'est aussi la bagarre. En fait, c'est on s'encombre pas de superflu. On va au cœur des choses directement. Et en fait, c'est à la fois sa plus grande force et je pense qu'on en arrivera à la conclusion que c'est aussi sa plus grande faiblesse. C'est que c'est les personnages qui sont centraux et ils règlent beaucoup de problèmes par la violence. Alors, c'est intéressant parce que Gemmell est assez doué pour décrire les scènes de combat, mais on entend tout à fait les critiques qui disent « Oui, mais c'est beaucoup trop de combat et puis c'est beaucoup trop la violence. » Oui. Certes, mais il faut savoir directement, quand on commence à lire Gemmell, que c'est sa recette. Voilà. C'est comme si vous disiez « j'adore le gâteau de mamie, mais il y a trop de chocolat ». Tu l'adores peut-être parce qu'il y a trop de chocolat.
Ou c'est le gâteau de mamie.
Ou le gâteau de Drus.
Ou le gâteau de Drus, effectivement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il est, quand vous lisez un Gemmell, tu rentres vraiment en fait, dans cet archétype où tu vas avoir cette dose de violence, de baston, de tout ce que tu veux par rapport à ça, au détriment, effectivement, comme Akalabès le disait via Gilles Hossein, au détriment du background, ce qui pourra gêner ou pas, d'ailleurs. Et je voudrais citer quelque chose par rapport à ça. Dans une interview de Gemmell, que vous pouvez retrouver sur YouTube notamment, vous avez un moment l'auteur dit clairement qui est son auteur de référence à lui, donc son auteur vraiment préféré. Ça m'a énormément marqué parce que il a cité donc Louis Lamour. Lamour, L'apostrophe est comme amour. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Louis Lamour, déjà j'ai envie de vous dire, mais attendez, vous connaissez pas Louis Lamour ? Donc
non, mais allô quoi ?
Allô quoi ? Mais donc deux choses. Déjà, première chose, je vous incite en premier lieu à vous imaginer John Wayne, qui, au lieu de se rendre un jour dans un studio de cinéma, se serait assis à une table pour écrire. Et donc maintenant, deuxième lieu, je vous incite à taper son nom dans Google, donc avec l'apostrophe, sinon vous allez tomber sur un boulanger ou un pâtissier, je crois. Donc vous tapez Louis Lamour et vous allez voir les résultats de recherche et vous allez me dire en forum si j'ai pas raison. Parce qu'effectivement, donc Louis Lamour, c'est le modèle sur lequel Gemmell a fondé à la fois son style d'écriture, mais on va dire sa philosophie littéraire, c'est un mec qui a écrit 200 histoires, du western principalement. Alors, vous voyez hein, sur les photos, hein, c'est un mec avec chapeau de cow-boy, veste de cow-boy, c'est le cow-boy, clairement. Vous avez sur sa page Wikipédia, il serre la main à Reagan. Enfin, c'est vraiment l'archétype de ce type de personne, d'auteur. Et ça, c'est Gemmell qui le dit. Les 200 histoires qu'il a écrites, il s'agit 200 fois de la même histoire. Mais ça reste cool à lire. Ça reste cool à lire. Mais effectivement, c'est 200 fois la même chose. Il y a un gentil qui arrive dans une nouvelle ville. Il descend de son cheval. Il est un peu moche. Il est un peu âgé. Il voit une fille. Il en tombe tout de suite amoureux. Il rentre dans le saloon. Il rencontre le méchant, le gentil. Et il est seul face à 40 suppôts du méchant. Et à la fin, le gentil, il finit avec la fille. Et le méchant est battu. Voilà qui clôt notre podcast 87 sur David Gemmell. Gemmell, merci de l'avoir écouté. Non, plaisant bien entendu. Voilà, donc en tout cas,
je trouvais que... Tu rigoles, mais en fait, il y a un public pour ça.
Mais bien sûr, Ah oui, non, non, mais c'est pas du tout.
Non, je sais hein, que c'est pas, c'était sur le ton de la blague, mais en fait, je sais plus qui sur le forum disait que justement, c'est un style très simple. Ça, c'est vrai. Hein. On a beau être le défenseur le plus acharné du dernier mur de Drosdelnok, il faut reconnaître que le style, voilà, on n'est pas dans quelque chose de très relevé. Il va directement au cœur du problème. Mais en même temps, il n'a pas trop de successeurs, de copieurs, de disciples. Donc, c'est que ça a fonctionné assez bien. Mais on verra après ce que ça fonctionne aujourd'hui.
Ouais, ça va être une question effectivement intéressante. C'est pourquoi est-ce que aujourd'hui, pratiquement, ça fait quoi? Ça fait 15-16 ans après sa mort, on continue à le lire, il continue à être à se vendre, en tout cas en France, au Royaume-Uni. C'est parce qu'effectivement, il y a une vraie patte, David Gemmell, qui a eu du mal en fait à être copié, voire transcendé, dépassé, quoi. Donc, c'est quoi les valeurs qui sont mises en avant chez Gemmell de roman en roman? Finalement, qu'est-ce qui se détache? On a commencé un peu à en parler. Gilles Tanas.
Donc, je l'ai dit, hein, le courage, la vertu. En fait, il faut savoir que David Gemmell le dit lui-même, il écrit des romans pour inciter les gens à être héroïques. Voilà. Ouais. Il trouve que notre époque, ou son époque, quand il a commencé à écrire, et je ne pense pas que ça se soit amélioré aujourd'hui, manque de héros. Alors après, on pourrait débattre 107 heures sur la figure du héros, de l'homme providentiel, etc. Mais en tout cas, lui, dans sa vision à lui, et on peut au moins lui reconnaître d'être tout à fait droit dans ses bottes là-dessus, c'est qu'il n'en a jamais dévié et qu'il le revendique ouvertement. Il écrit pour transmettre un message d'héroïsme. Alors, il le dit assez bien en interview, un héroïsme plus quotidien. Bien sûr qu'il ne demande pas à tout le monde de se saisir de sa hache et d'aller repousser des hordes d'envahisseurs, quels qu'ils soient.
Sinon, vous allez finir en prison, hein.
Voilà, donc je ne vous le conseille pas. Mais l'idée, c'est de transmettre des valeurs qui, comme l'a dit Jacqueline Bou, ont pu donner l'impression d'avoir disparu. Et lui, il y est très attaché. Donc ça vient sûrement de son éducation, de sa relation à la religion chrétienne. Mais donc on a le courage, l'honneur, la vertu, qu'est-ce qu'on peut aussi dire, l'amitié. Mais des amitiés parfois subies, l'attachement à la parole donnée. Voilà, on n'a pas envie d'y aller, mais j'ai dit que je viendrais, je viens. Et là, on ne parle pas d'aller en soirée avec des gens qu'on n'aime pas. On parle d'aller s'enfermer dans une forteresse où on sait pertinemment que les chances de survie sont assez restreintes.
Le courage aussi, mais un peu moins quand même.
Ouais, le fameux « c'est pas grave de ne pas en avoir envie, il faut juste le faire ».
J'ai dit que je le faisais, donc je le fais. Ouais. Voilà. Et il y a aussi, alors je ne sais pas où on peut classer ça, mais le fait que les légendes sont souvent plus belles que la réalité. Parce que je pense qu'après, on s'attardera sur légendes, mais je pense qu'on peut déjà dire que, en fait, tous ceux qui ont lu légendes, je pense, ont fait le parallèle avec l'histoire de Fort Alamo. Et Gemmell dit bien que lui, il était fan du roman qui est sorti, The Alamo, mais que quand il a découvert la réalité derrière les faits de Alamo, il a été très déçu, parce qu'en fait, voilà, si vous lisez vraiment l'histoire de Fort Alamo, c'est, comme le dit lui-même, une succession d'erreurs terribles. À la base, les Texans, ils étaient juste là, on va pas dire pour faire un sitting, mais vraiment pour dire on est là, et voilà. Et ils finissent par se faire tous massacrer. Et donc, ils préfèrent, on va dire, garder le côté héroïque des légendes, justement, hein, on va y revenir souvent. Et en même temps, montrer que les héros qui, au fil des romans du cycle de Draenei, deviennent des légendes pour les protagonistes des romans qui se suivent, en fait, ces héros-là sont avant tout des hommes avec leurs défauts, leurs mauvais caractères, leurs secrets cachés, etc. Et que, en fait, on n'en garde qu'une image de sauveur, voilà, d'homme providentiel. Il y a peut-être aussi ce côté-là, que faire attention au... Voilà. Garder que le positif de quelqu'un qui a fait preuve d'héroïsme et peut-être un peu mettre de côté ses mauvais côtés. Et je pense qu'il y a aussi un parallèle à faire là-dessus sur sa vie, parce qu'il n'a pas une vie, on va dire, bien rangée. Mais qu'il a peut-être cherché à faire amende honorable par la suite.
Tu l'as très bien défendu. Moi, j'avais juste dit que j'avais l'impression que c'était le Clint Eastwood de la fantasy. Mais oui, Gilo.
Oui, mais justement, je voulais rebondir là-dessus sur cet aspect Clint Eastwood parce que ça rejoint un peu ce que vous dites tous les deux. Parce que voilà, Clint Eastwood, dans certains de ses westerns, il a aussi montré. Finalement, avec lui, on a aussi découvert une image beaucoup plus sale du western.
Ouais.
Que certains westerns très policés des années 40-60. Et du coup, bah, quelque part, c'est un peu la même chose qu'entre la réalité et la légende évoquée par Giltanas concernant l'univers de Gemmell, notamment du côté du cycle Draenei sur lequel on va revenir très vite. Mais voilà, cette dichotomie, et je trouve qu'elle se retrouve justement aussi dans le parallèle avec Clint Eastwood. Donc c'était plutôt une bonne remarque.
Eh bien, écoute, merci mon cher. On va justement rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu des livres. Donc on a commencé à évoquer Draenei, hein, donc le cycle de Draenei, hein, qui est le cycle principal de David Gemmell, qui compte 11 romans, donc le tiers de ses écrits, hein, donc ce qui est pas mal, hein, quand même. Et je te laisse la parole, Danès.
Je vais commencer par le dire tout de suite, ce sera fait. Le fanboy qui est en moi trouve que c'est un des meilleurs romans de fantasy qui ait jamais été écrit. Il existe mille et un arguments contre cette phrase, mais de toute façon, personne ne me fera changer d'avis. Ceci étant dit, c'est un roman qui est publié en 1984 par un éditeur anglais qui s'appelle Century. Il est basé sur une nouvelle qui était simplement appelée Le siège de Drosdelnok, que David Gemmell a écrit pendant 2 semaines. Durant lesquels il a subi une batterie de tests pour savoir s'il était victime ou non d'un cancer. Et c'est là où ça a toute son importance, parce que la métaphore, effectivement, est quand même assez claire, c'est que la forteresse, c'est son corps, les hordes de nadirs qu'il attaque, ce sont les petites cellules cancéreuses, et il ne savait pas, avant les résultats de ses examens, si la forteresse allait tomber ou pas. Il le dit donc en interview, s'il était condamné, la forteresse tombait, et c'était une erreur de diagnostic initiale, la forteresse résistait. Donc du coup, étant donné que c'est le premier de 11 romans, je vous laisse imaginer vous-même les résultats du diagnostic et des examens. Donc, bah, c'est une histoire de siège. Alors, bah, j'espère que... Voilà, ouais. On va pas lui prononcer ce nom, parce qu'il y a des sièges, partout. On a l'impression de faire une partie d'Age of Empires. Mais les hordes de Nadir, qui sont menées par Ulrich, le clone sosie de Attila Gengis Khan, bah, veulent attaquer... les territoires qui ne leur appartiennent pas, de Draenei, et donc doivent passer par la forteresse de Drosdelnok qui garde la passe qui mène à leur pays.
Oui, exactement.
Le parallèle avec Yaziel Mo, moi perso je pense aussi au gouffre de Helm. C'est une forteresse particulière parce que c'est une forteresse qui est composée de plusieurs murs. Alors déjà moi je trouve que c'est une bonne idée cette histoire de murs dans le roman. En fait les murs qui sont écrit représente l'état d'esprit des défenseurs. Donc, c'est ça. Par exemple, le premier mur, c'est le mur donc ça s'appelle Eldibar, c'est le mur de l'exultation. Bah, on voit l'ennemi, on est content, etc. Et en fait, après, les noms qui sont dans un langage inventé, mur de l'angoisse, du nouvel espoir, du désespoir, de la sérénité, mur de la mort, sont censés, un petit peu comme les différentes phases du deuil, montrer les différentes phases du siège. Et quand on arrive au dernier mur, c'est le dernier carré, quoi. Donc c'est la première apparition de Drus, bien que le héros principal en théorie du roman ne soit pas Drus, en fait. C'est un certain Regnac. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous citer la première phrase du roman. Rek était saoul. Voilà, ça vous pose déjà un petit peu le contexte. Donc direct, on sait que le héros, voilà, il est un petit peu perdu. Ce qui fait aussi écho à l'alcoolisme de David Gemmell. Quand il a écrit plusieurs de ses romans. Donc Regnac, c'est un héros. Enfin, un héros. Il ne se révèle pas comme un héros au début. Hein. C'est plutôt un mec qui est là. Voilà, c'est officier de l'armée, mais en gros, il a eu peur de la guerre. Il s'est devenu un vagabond. Voilà.
Ouais, c'est même pas Aragorn, en fait, puisqu'il n'est pas, c'est pas un nobleborn. Enfin, je veux dire, il est...
Alors, sans spoil, si... Ah. Mais d'un ancêtre lointain. Mais c'est surtout un berserk.
Le héros est un berserk.
Oui.
Il me semblait qu'il n'y avait que Drus qui était un berserk. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est un berserk, comment on pourrait le décrire ?
Une sorte de berserker, on va dire, de la mythologie scandinave. C'est quelqu'un qui est capable de se mettre dans une colère noire et de se jeter à travers les lignes ennemies, faisant fi de sa sécurité personnelle pour mettre d'immenses coups de hache ou de épée en fonction de son affinité.
Tu as extrêmement bien résumé ce qu'était un berserker.
Bref, il y a un siège, il y a des héros qui se retrouvent derrière les murs. Alors, avec des personnages secondaires, on a les 30 aussi, qui sont des prêtres guerriers avec des pouvoirs un petit peu mystico-mystiques, qui sont, d'après un de mes compères ici présents, peut-être la meilleure invention du roman.
Alors, c'est pas moi.
suivez mon regard vers la troisième personne. Donc en fait, on va suivre simplement le récit de ce siège entrecoupé de flashbacks sur la vie des personnages qui nous permet de mieux comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont là. Eh ben, avec un épilogue que je vous laisse découvrir si vous lisez le roman, mais je vous ai déjà spoilé en disant que David Gemmell n'avait pas de cancer, donc voilà, la forteresse ne tombe pas.
Mais on n'en dira pas plus parce qu'il y a effectivement quelques petites surprises dans le roman. Bon, c'est vrai que c'est un roman que j'ai lu il y a 15 ans et je m'en rappelle. Et je m'en rappelle plutôt bien, on va dire. Je ne me rappelais pas du nom du héros, mais...
Je ne me rappelais pas qui était Berserk.
Non, effectivement, non. Mais c'est l'intérêt pour moi de légende, c'est ça qui moi me donnait envie de le lire à l'époque, c'était que on voyait cette figure de Drus, le héros, qui devait, en tout état de cause, dans une autre histoire, ce serait le héros principal. C'est par lui que tu commencerais le chapitre 1 ou après le prologue. Eh ben, il l'est pas en fait. C'est un personnage secondaire. En plus d'être un personnage secondaire, il est vieux, il est fatigué, il est déprimé. Bref, il a tout sauf envie d'aller faire ce siège, mais il y va quand même. Et il est accompagné de cette aura que tous les gens autour de lui décrivent. Ils disent « Ah quoi, tu connais pas Marchemort, etc. La passe de Skeln, etc. » En fait, il y a ses exploits qui sont racontés, c'est pas lui qui les raconte. Et le héros, en fait, voit ça et interagit avec ce qui devait dans un autre roman de fantasy, ce qui aurait été le héros. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, dans Légende. On a Gilosen qui lève les yeux au ciel.
Non, pas vraiment, mais c'est sûr qu'on a, j'ai pas le même point de vue que Gitana sur ce roman, parce que moi, je me rappelle à l'époque quand je l'ai lu, et c'est un roman qui tout de suite a fait... Bon, on le dira plus tard aussi, hein, mais c'est un roman qui a tout de suite participé au décollage de Bragelonne à l'époque, hein, puisque c'est une de leurs premières sorties. Et c'est vrai qu'il y avait des avis très très enthousiastes. Alors c'était un lancement, on va dire bien organisé, mais beaucoup de lecteurs semblaient très très enthousiastes. Et moi, je trouvais, enfin, même par rapport à d'autres romans du même cycle, hein, ne serait-ce que Drus la légende ou je sais pas, enfin, il y avait quelque chose dans Légende qui me gêne parce que j'ai un peu l'impression que c'est, d'un côté, c'est, il y a tout ce qu'on retrouvera ensuite chez Gemmell dans ses autres romans. Il y a un côté très brut de décoffrage et très synthétique de l'œuvre, et en même temps peut-être que justement c'était trop brut de décoffrage ou trop justement que ça se réduisait trop à la formule elle-même, parce que ouais, moi ça m'avait pas, j'avais, enfin, par rapport même à, je parle encore une fois, je parle vraiment même sans le comparer à d'autres auteurs ou à d'autres œuvres, il y a quelque chose qui manque dans ce roman-ci que je trouve trop, même s'il y a déjà des concepts intéressants, etc., mais que je trouve un peu trop simpliste, et je sais pas, j'ai du mal à y croire. Alors après, évidemment, c'est un héroïsme poussé à son paroxysme, hein, donc, parce que même si Drus n'est pas au meilleur de sa forme, il reste quand même un gros balèze, donc voilà. Mais je sais pas, c'est vrai que moi, je le dirai plus tard, mais c'est pas forcément... c'est le roman le plus connu de Gemmell et de loin, je pense, mais moi, c'est clairement pas mon préféré.
J'ai une position un petit peu entre vous deux.
C'est le grand écart.
Le grand écart, exactement, en tout bien tout honneur. Parce qu'effectivement, autant je m'en rappelle très bien, autant Légende, ça ne m'a pas non plus laissé un souvenir. Si tu veux, quand tu vas me demander mes meilleurs romans de fantasy ou mes meilleurs souvenirs, je n'ai jamais pensé à Légende en premier. Et pourtant, je m'en rappelle plutôt bien. On a Gitanas qui est dépité. Parce qu'effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des éléments, mais qui ne s'imbriquent pas exactement comme ils pourraient s'imbriquer. Donc, il y a un potentiel pour moi qui n'est pas exploité à fond. Gilosène, pardon.
Ouais, même si tu fais une sous-catégorie à la fantaisie à mur. Tu vois, je mettrais l'attaque des titans avant, tu vois, par exemple.
Ah bah oui, carrément.
Quelle horreur.
Et avec, pareil, des noms de murs, Maria, Staros, ouais. Tu vois, voilà quoi. Ils expriment, alors je pense pas que ce soit les faces du deuil.
Bon, c'était pour la blague, mais bon.
Ouais, mais ça pourrait être un concept à développer, effectivement, la fantaisie à murs. Bon, voilà, donc Légende, effectivement, qui nous laisse des souvenirs et des avis un petit peu partagés. Sachant que, ensuite, donc après le carton... Gitanas, tu vas nous le confirmer, mais il a écrit du coup c'est pas la suite, mais c'est
le roi sur le seuil.
Ah d'accord, parce que moi je serais allé sur Drus la légende après,
dans l'ordre d'écriture chronologique, c'est le roi sur le seuil qui développe le côté comte de bronze. C'est une espèce de personnage mythique avec son armure relique, on va dire, voilà, qui va traverser un peu les romans. Il va y avoir différents descendants, certains qui vont revenir, d'autres qui vont même ressusciter des fois. En fait, c'est assez difficile de dire s'il y a vraiment une continuité dans tout ça, parce que malgré tout l'amour que je porte à l'auteur, on l'a dit en introduction, il construit ses histoires autour de ses personnages. Il a souvent la même recette, alors qui fonctionne à mes yeux, mais qui peut tout à fait lasser d'autres lecteurs. Mais on voit clairement que c'est pas un Brandon Sanderson avec son armada d'assistants qui vont dire « Ah non, page 380 du roman 12, tu peux pas parce que lui, il est en bleu et pas en rouge. » Ça, David Gemmell, vous m'excusez l'expression, mais il s'en tamponne. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe pour ses personnages. Alors, il y a une petite tentative d'unifier tout ça, et on verra que Draenei, c'est pas la pierre, parce que quand on parlera des pierres de pouvoir, là, on va vraiment s'apercevoir que c'est pas le world building, c'est pas du tout son délire. Le fait que ça soit considéré comme un cycle, déjà pour moi, c'est, mis à part le fait que ça se passe dans le même univers, c'est compliqué, parce que j'aurais même plus divisé ça entre le cycle de Drus et les autres, parce qu'il y a des références, des clins d'œil, des rappels, mais c'est quand même très succinct, très, très superficiel, je trouve. Et donc il faut, je pense, de mon point de vue, dissocier les romans qui parlent de Drus, où Drus intervient directement, physiquement, et les autres où, en fait, ça se passe dans Draenei, mais par exemple, il y a les épées du jour et de la nuit, ou la quête des héros perdus, ça pourrait se passer ailleurs que dans Draenei, ça changerait pas tellement l'histoire. Hein. C'est un reproche que même moi, je fais à l'œuvre. C'est ce manque d'unité du cycle de Draenei qui fait que c'est un des reproches principaux qui sont souvent mis en avant par les, je vais pas dire les détracteurs, mais par ceux qui ont pas vraiment aimé. Et en fait, ça, pour moi, il y a même rien qui, j'ai beau eu retourner le problème dans tous les sens, c'est vrai, voilà. Et on peut
tu
pas
l'acceptes ou pas, quoi, selon
voilà, c'est même pas une question de non, mais je pense que dire le contraire, ça serait vraiment de la mauvaise foi, en fait, parce qu'il y a rien qui dit que non, mais c'est très bien construit et tout. Non, c'est plein d'incohérences. Tous les peuples sont super balèzes. Il y a toujours quelqu'un qui veut venir vous envahir. Bon, bah super, c'est bien pour le roman en lui-même, mais pour la cohérence globale, bah un envahisseur, je me retourne, ah mon dieu, un autre envahisseur, décidément il faut changer d'endroit.
T'as pas envie de vivre dans cet univers, t'es constamment envahi.
Déjà t'as pas envie d'y vivre parce que t'es pas un héros. Moi, je suis pas un héros. Oui. Si je devais soulever ce naga, je pense que je me ferais un petit blocage des lombaires. Mais si t'es pas un héros, il faut pas vivre dans cet univers, parce que t'es soit une victime, en gros, tu te fais taper dessus, soit t'es un méchant, t'as une petite particularité, mais de toute façon, tu vas finir par prendre une flèche dans l'œil, et voilà. Ou pire, et là, je pense, de toute façon, on y reviendra après, tu es une femme.
Oui.
Et là, non une femme dans Draenei, non.
Ouais, tu vas faire tapisserie, quoi.
Et encore.
Et encore.
Quand l'auteur est bien luné.
non, effectivement, ouais. C'est, je pense qu'il y a une frange, en fait, d'amateurs de fantasy, et dont je fais partie, hein, clairement, qui va adorer le lore, en fait. Qui, chez un auteur, tu vois, typiquement, j'adore Sanderson.
L-O-R-E, tu veux dire.
L-O-R-E, L-O-R-E, ouais. Ouais, ouais. Tu voyais un autre lore? Ah, L'apostrophe, ouais, oui, d'accord.
Moi, j'adore l'or, mais...
J'adore l'argent. Non, si tu veux, tu lis du Sanderson, tu vas kiffer quand l'auteur va faire des ramifications, etc., et que tout s'emboîte parfaitement. Mais effectivement, le problème de Draenei, c'est que tu as cette impression que Gemmell, il a imbriqué ça, mais de manière, ah ouais, ici et là, bon, ça s'emboîte pas trop, mais j'essaye. Et c'est ce qui donne, en fait, un petit peu ce côté factice. Je trouve ce côté un peu univers carton-pâte que je trouve dommage, parce qu'au final, tous ces romans, Le Roi sur le Seuil, Waylander, tous les 11 romans de Draenei, ils se passeraient pas chacun dans un univers différent, ce serait la même chose. Ce serait vraiment la même chose.
Ben, c'est là qu'on voit ce qu'on en discutait en préparation, que finalement, les one-shots, sont peut-être
bon. Sont peut-être ce qu'on va
meilleur.
Ouais. Ah ouais. L'écho du grand chant, Dark Moon,
Renégat.
Renégat, effectivement, ouais, qui sont en fait complètement détachés. Et on sent qu'effectivement, bah, Gamel, il n'a pas cette pression-là de se dire attends, qu'est-ce que j'ai fait à cette période-là, etc. Enfin, donc effectivement, il peut beaucoup plus s'atteler à ses lignes de force, si je puis dire.
Après, je pense qu'on peut concevoir cet attachement à Drenaille dans le sens où, dans le premier roman, il a mis beaucoup de lui-même. Il dit clairement que Rek, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la première phrase, c'est Rek était saoul. Voilà. Drus, c'est son beau-père qui l'a beaucoup soutenu, etc. Il y a aussi sa femme qui a. Voilà. Il aime bien mettre des gens qu'il connaît dans ses romans. Donc, on peut aussi en déduire que, de facto, il a un certain attachement à l'univers. Mais je pense que ça aurait été intéressant de lui demander la part de. Comment on peut dire, l'obligation qu'il a eue. Ou qui s'est senti obligé d'avoir, de fournir le cycle de Drenaille et pas simplement enchaîner des one-shots dissociés les uns des autres. Parce qu'en fait, clairement, l'univers dans les romans du cycle de Drenaille passe tellement au second plan qu'il est totalement accessoire, en fait.
La question que je me pose, tu vois, c'est est-ce que finalement l'univers de Drenaille, c'est pas une espèce d'obligation marketing ? Parce que, pour rappel, hein, quand même, Légende, ça sort en 84, donc Fantasy des années 80, c'est archi-dominé par la high fantasy type Terry Brooks, David Eddings, j'allais dire Robert Jordan.
Les Pechanara, non
les... Oui, les Pechanara.
Feist.
Feist, exactement, Raymond Feist. Donc, de la fantasy avec beaucoup de tomes et une certaine continuité dans l'univers. Et finalement, en fait, tu es son éditeur, tu reçois Légende dans les mains, ça se vend plutôt bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton auteur ? Ouais, t'as pas une suite, tu vois ? Alors que lui, Légende, à la base, il n'y a pas de suite de prévu.
Ben, déjà, à la base, Légende, ça a été refusé. Hein. Ça a dû être écrit, etc. Avant vraiment de trouver un éditeur qui accepte de le sortir. Mais après, il faut aussi dire que David Gamel, il a publié un roman par an, quasiment, voire plus, à certaines années. Il a un débit dans différents styles, parce qu'on parlera après des romans plus historiques. Je ne pense pas qu'il y ait une pression, une réelle pression de l'éditeur pour dire « Non, il faut un cycle, il faut une marque ». Je pense qu'avant tout, ce qu'il vend, c'est son nom. Ce n'est pas la Belgariade 1, 2, 3, 4, 5. C'est David Gamel.
Oui, bien sûr. Mais avant.
Je ne pense pas que les gens disent j'ai lu le cycle de Drenaille. Les gens disent j'ai lu David Gamel. J'ai lu la Belgariade. Tu vois. Tu dis pas j'ai lu David Eddings. J'ai lu le Trône de Fer.
Oui,
Drenaille. Gamel, tu dis j'ai lu Gamel.
Drenaille, c'est secondaire.
Voilà. C'est...
L'auteur est prioritaire, effectivement.
Et les héros. Par contre, Drus, tout le monde connaît.
Ouais.
Il y a un prix littéraire, David Gamel. Il y avait, parce qu'il est mort en 2019. Et le gagnant, il gagnait Snaga. Hein. Donc, voilà.
C'est quand j'ai même... un regret immense qu'il soit arrêté. Donc, est-ce que c'est le moment, du coup, où on parle un peu des suites, pseudo-suites de Drus, ou tu veux... Non.
On peut.
Tu peux continuer à parler de Drenaille dans le sens chronologique.
Hein. Bah. Je les ai lus par ordre de parution, moi, donc je ne connais pas l'ordre chronologique, pour être honnête.
D'accord, ok.
En fait, je m'en tape du l'ordre chronologique.
Pour celles et ceux qui nous écoutent, donc, si vous n'avez jamais lu David Gamel et Drenaille et Drus, il faut savoir, donc, vous avez trois livres qui sont pour moi une espèce de fausse trilogie, en fait, qui font partie donc, du cycle de Drenaille, bien entendu, qui sont une fausse trilogie parce qu'à la base, donc, Légende, qui raconte l'histoire de Drus, qui est le premier livre qui paraît, il n'y a pas de suite de prévu à la base pour Drus, pas du tout. Et finalement, en fait, Gamel qui reçoit des lettres de fans passionnés qui disent « Ah, on lirait bien une suite !» Il n'y a pas de suite. « Ah, mais on lirait quand même bien une suite !» Finalement, en fait, il se dit « Bon, je vais écrire une autre histoire sur Drus. » Et ça va donner Drus, la légende, qui se passe dans le passé, donc qui va raconter la jeunesse de Drus, sur 350 pages, je crois, encore une fois, j'en ai quelques souvenirs, mais je n'ai pas vraiment aimé cette histoire parce que je trouve qu'il y a un côté vraiment très forcé. Et d'ailleurs, c'est encore pire pour moi dans La Légende de Marchemort, qui est encore un interlude. En fait, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est une fausse trilogie, Drus, parce que Drus, La Légende, ce n'est pas un interlude, mais bon, on va dire que c'est un prologue. Et La Légende de Marchemort, par contre, pour moi, c'est un vrai roman interlude, quoi.
T'as oublié Loup Blanc aussi.
Oui, alors oui, Loup Blanc, oui, effectivement. Mais alors attends, c'est Loup Blanc, pour le coup, je ne l'ai pas lu. Et dans Loup Blanc, il est personnage secondaire, si je ne m'abuse.
Mais il est là.
Ok, il est là.
En fait, c'est, je ne sais plus, j'ai regardé une vidéo sur YouTube où quelqu'un disait que, en gros, le problème de Drus, c'est que c'est comme si tu faisais un film avec peut-être des acteurs très bons, et qu'au milieu du film, tu faisais intervenir Sean Connery. On mettra le lien de la vidéo, parce que c'est pas moi qui ai inventé cette comparaison. Et à partir du moment où Sean Connery arrive dans le film, tu n'as Dieu que pour lui, même s'il a un rôle mineur. Voilà. Et c'est un peu le problème de Drus, parce qu'il intervient dans des romans, des fois, et Gaiman l'a dit dans la fameuse interview qu'il a donnée pour moi, jeune, là, que je ne sais plus pour quel roman, il disait j'ai donné sa chance sur quasiment 130 pages au héros, et dès que Drus arrive, c'est fini. Les gens viennent voir ça. Dans les épées de la nuit et du jour, Drus, il est ressuscité, c'est Drus, quoi.
Non, mais ça, il faut qu'on va en reparler, les épées de la nuit et du jour, parce que j'ai halluciné. Donc, en fait, c'est Gemmel, il ressuscite tous ses héros.
Voilà.
Non, mais ça fait vraiment, tu sais, l'épisode de Noël.
Ouais, ou Avengers, là.
Ou Avengers, tu vois.
Le dernier, ils sortent de leur cercle.
Ouais, un Avengers de Noël, tu vois. Genre, allez, tu vas avoir tous tes héros, ils sont ressuscités, ils vont faire la méga team ensemble. Ah, génial.
Ouais, génial.
Alors voilà.
En fait, c'est il y avait effectivement pas de suite prévue. Il y a eu des suites qui ont été demandées. Le roi sur le seuil, il parle pas de Drus, et en fait, il explique lui que il a reçu tellement de lettres de fans que Drus, que il s'est senti un petit peu obligé de refaire du Drus. Ça me fait un peu penser à toute comparaison. Garder, on va dire, à Conan Doyle qui a tué Sherlock Holmes, c'est « Bah non, ouais, non, il faut qu'il revienne, machin. » Voilà. T'as beau écrire autre chose, les gens sont attachés au personnage, ouais. Qui est attachant, hein, dans un sens, et on sent que, voilà, il a du mal à le faire mourir, hein, déjà, Drus, dans Légende. C'est compliqué, et puis...
Ah, c'est dur à cuire. Hein.
Voilà, il meurt pas.
Je pense c'est une légende.
Oui, exactement. Bah justement, le terme qui revient tout le temps est finalement très bien choisi, hein, parce que il a du mal à se détacher de ce personnage. Et c'est dommage parce qu'il a quand même des qualités d'écrivain. On parlera après de ses autres romans. Quand il parle pas de Drus, il est souvent meilleur.
Ouais, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que. Excuse-moi, Gilles Hossein.
Oui, non, c'est juste pour dire. Du coup, moi, j'imagine Sherlock Holmes qui affronte Moriarty avec une hache maintenant, mais c'est pas.
C'est encore un épisode de Noël dont on nous aura
parlé. Les chutes de Rorschach avec une hache.
C'est très drôle. Mais...
Non, mais t'as raison. Enfin, je suis complètement d'accord. Il y a un souci avec Drus parce que ce qui fonctionne dans Légende, dans le premier bouquin. C'est que c'est une légende, il est vieux, etc. Donc tu prends l'archétype du héros légendaire et tu le déconstruis. Et en fait, le problème, c'est qu'après, tu as Drus la légende, et c'est plus du tout ça. Là, tu repars sur le pécor de base qui coupe du bois, et c'est littéralement ça parce qu'il est bûcheron. Il y a une armée qui attaque son village, et lui, il a pas grand-chose pour lui à part le fait qu'il est super costaud. Qu'il a sa copine, qui est aussi sa seule amie, parce que voilà. Et donc, l'armée arrive, ils tuent tout le monde, ils enlèvent bien entendu la fille. Et lui, il a trop les boules. Donc, bien entendu, il est super costaud, donc il tue quand même des gens de l'armée, mais pas assez fort. Il va chercher la grosse hache de son papy et il va défourailler du méchant pendant 300 pages.
Pendant 7 ans. Il met 7 ans à retrouver sa femme.
Ouais, il y a des années. On va mettre des bannières spoilers de ce podcast. Mais alors, j'aimerais quand même préciser que ce n'est pas très important si vous voulez lire du Gemmel. Il n'y a pas vraiment de spoiler alert, de twist, de choses comme ça. En fait, chez Gemmel, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment ça l'important.
Fallait l'appeler Drus, la pré-légende.
Exactement. D'autant plus que tout ce qui est dit dans Drus, la légende, tu le sais dans Légende, en fait. Et c'est ça, en fait, que moi, je reproche à Drus la légende, c'est qu'il n'y a aucune... t'as aucune surprise, parce que tout est dit dans Légende. Quand dans Légende, il dit « Ah, t'as perdu ta femme !» Dans Drus la légende, tu vas avoir des... Il me semble qu'à un moment, t'as des voyants qui vont dire « Ah, tu vas perdre ta femme !»« Ah ouais, merci !» Tu vois
Oui, mais on n'est pas là pour ça.
C'est ça. Et tu vas avoir la passe de Skeln, qui est un moment, en fait, qui est censé être méga important, où on dit à Drus, à toutes les 10 pages, est-ce que tu as tenu la passe de Skeln ? qui est un moment important de sa vie à lui en tant que héros légendaire.
Qui est déjà un siège.
Qui est déjà un siège, effectivement, bien entendu, qui va tenir, etc., pratiquement tout seul. Et on va lui répéter toutes les 10 pages. Est-ce que tu as tenu la passe de Skene ? Est-ce que tu as tenu la passe de Skene ? Et c'est vrai que c'est le problème en fait, que j'ai retrouvé dans Drus la légende, c'est ce côté ultra répétitif, assez hyper redondant. En fait. Non. Tu savais tout. Donc c'est là où tu vois que ce n'était pas prévu à la base qu'il y ait ces bouquins-là. Et que ça a été vraiment écrit parce que légende a eu du succès. Quoi.
Après, quand tu es un héros et que tu as fait quelque chose de formidable dans ta vie, on te pose toujours la même question. Hein. Combien de fois on a demandé à Neil Armstrong qu'est-ce que ça fait de poser le pied sur la Lune ? Certains qui ont dit qu'ils croisaient quelqu'un. Ah, c'était bien sur la Lune ? Ben non, voilà, il fait froid. Il n'y a rien. Il ne va pas dire non, c'était nul, je regrette d'y être allé. De mon point de vue personnel, et ça n'engage que moi, je pense que les textes de Draenei sont volontairement simplifiés. Dans le style, etc., même dans l'intrigue. Parce que le propos, c'est comment il va faire pour retrouver sa femme. C'est pas que sa femme ait été enlevée, on s'en fout. Par qui elle a été enlevée, comment, pourquoi. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est comment il va y aller. Et c'est le chemin, la destination. On s'en fiche. Je gâcherai pas le plaisir de lecture à quelqu'un en disant qu'à la fin de tel roman, il se passe ça. C'est pas. Parce que justement,
certainement pas pour Gemmell.
En plus, les fins sont souvent précipitées. Mais
Oui, c'est pas le meilleur auteur de fin non. du monde.
Non, sûr. C'est le meilleur auteur de siège.
Oui. Ah oui. Ah oui
c'est caricatural, mais pas tellement, parce qu'en fait, on lit Gemmell. Alors les gens qui aiment, hein, parce que les gens qui aiment pas, je sais pas pourquoi ils le lisent, parce que voilà, moi je suis pas de cette catégorie-là. On le lit parce que c'est bien, c'est nerveux, il y a de la bagarre et en fait c'est cool quoi. On se pose pas de questions. On n'a pas à se poser de questions. En fait, l'auteur nous amène pas à nous poser des questions. Il nous transmet un message, l'héroïsme et la violence. Parce que la violence, c'est bien. Faites-en, mais à bon escient. Et c'est tout. Et ben, on est content de suivre Drus qui se balade avec sa hache, de suivre Rek.
On sera jamais perdu. Vous ne serez jamais perdu en lisant Gemmell. Il n'y a pas d'intrigue à tiroir, sous tiroir et de faux semblants, etc. Non.
Par contre, vous serez happé. Par l'action, par si vous êtes amateur du genre, attention, ça se comprend que ça ne plaise pas à tout le monde. Et je suis même pas sûr que ça soit le but en fait. C'est les persos, voilà. Il faut aimer les persos. Il y en a des chouettes. Et lisez la quête des héros perdus parce que j'en reviendrai dessus après, mais pour moi c'est le mieux. Et en plus de Drus, on peut aussi parler de Waylander qui a eu le droit à sa trilogie. Donc Waylander qui est un petit peu
avant Assassin's Creed.
Voilà, c'est la fantaisie à capuche avant la fantaisie à capuche. Donc c'est un assassin avec une capuche et une arbalète.
Ah, quand
même. Qui est vieux, mais qui est terriblement fort.
Et il a perdu sa femme.
Aussi. Et il est un petit peu misanthrope, mais finalement il prend quelqu'un sous son aile. Voilà. C'est si Drus, au lieu d'avoir mis tous ses points en force et en constitution, avait mis ses points en dextérité et en charisme.
Exactement.
Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de Draenei, mais David Gemmell a aussi écrit un autre cycle qui, lui, est un petit peu plus
moins
large dans les univers qu'il propose. Donc, c'est le cycle des pierres de pouvoir ou des Sibstrasi. Il va englober le lion de Macédoine, donc qui, comme son nom l'indique, se passe en Macédoine et en Grèce, les pierres de pouvoir qui se passent en Grande-Bretagne durant le Haut Moyen-Âge, la trilogie John Chano, et je m'engage un petit peu, mais il me semble qu'il y a aussi Rigante dedans. Et en fait, l'idée générale, c'est et si la magie finissait par réapparaître dans notre univers, quelles conséquences aurait-elle pu avoir sur notre histoire ? Voilà, donc là, on est dans, on va dire, un Gemmell qui se base sur notre univers et notre histoire pour diffuser ces histoires. C'est aussi des cycles, des trilogies ou des diptyques qui ont fait parler à la fois par leur qualité assez inégale. Voilà, c'est
pour être
honnête, hein, il y a du bon et du moins bon. Par exemple, le Lion de Macédoine dans l'ensemble est sans être reconnu comme un chef-d'œuvre et souvent, on l'a vu sur le forum, apprécié des lecteurs. Donc c'est un cycle qui est centré sur Parménion, un des généraux d'Alexandre le Grand. C'est pas un roman historique. Il faut savoir que nous, de manière générale, on va dire le lectorat, avons tendance à le classer comme un roman historique. Mais David Gemmell lui-même dit que justement, c'en est pas un, parce que il s'est inspiré de l'histoire de l'époque hellénistique, mais c'est bourré d'anachronismes, d'erreurs factuelles, on va dire volontaires, dans le sens où en fait l'auteur n'en a que faire, quoi. C'est faire des vérifications sur la couleur des ornements de tel temple, c'est pas, pour lui ça l'intéresse pas, ça porte rien de son point de vue au récit. Donc il a jamais revendiqué l'Union de Macédoine comme étant une série de romans historiques. Et c'est aussi dans cette trilogie qu'on a la première mention du chaos et du dieu noir dans le cycle des pierres de pouvoir, qui se passe en Grande-Bretagne durant le Moyen-Âge. On a la trilogie Jeune Chano, alors qui est une trilogie assez particulière. Pour ceux qui veulent la découvrir, elle va faire partie de la sélection de Bragelonne de cette année, donc qui va paraître début juin 2022. De 10 ans, 10 romans, il y aura donc une intégrale de Jeune Chano avec les trois romans pour 10 euros. Donc ça peut être l'occasion de découvrir... découvrir ça. C'est plutôt du dark fantasy post-apo. Sur le plan, j'ai marqué Coucou Shannara. Comme quoi.
Western aussi.
Western, mais le Coucou Shannara, ouais. C'est surtout que. Bah, c'est un peu comme, ouais. Comme Shannara, quoi. C'est pas tip-top, hein, John Shannara.
Western, la tour sombre. Hein.
La tour sombre, Solomon Kane, tout ça.
Moi, j'aime bien le perso, mais c'est vrai que c'est plus l'ambiance que Western qui me plaît que les romans eux-mêmes, quoi.
Bah, comme après, il y a des histoires de multivers aussi dans le cycle des pierres de pouvoir. Et c'est pas quelque chose que Gemmell maîtrise à la perfection.
Ah non, ça c'est sûr.
On a aussi trois.
Oui.
C'est Akalabès qui en a parlé. Et,
bah, du coup, trois, c'est vrai que c'est, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est la guerre de Troie, hein, incroyable. Mais vu par Aîné, donc du côté troyen. D'après Aka, mais c'est vrai que j'aurais tendance à être d'accord, plus que partout ailleurs, bah forcément, on connaît la fin. Et bah un peu comme dans le Lion de Macédoine, hein, les libertés, on va dire, sont innombrables. Hein, on va dire que Gemmell, il réinvente un peu l'Iliade à sa sauce, mais il le fait en l'assumant pleinement. Hein, le côté, comme tu disais, si... telle colonne n'est pas exactement comme elle devrait l'être, etc. dans les temples, ou si les mosaïques ne sont pas de la bonne couleur, c'est pas le détail le plus important à ses yeux, quoi. Donc là-dessus, il a là encore une certaine continuité, on va dire. On peut pas lui enlever.
On aura également deux romans policiers qui corrigez-moi si je me trompe, mais vont avoir de policiers vraiment que la dénomination, parce que c'est à mon avis pas, ça brille pas par la qualité de son intrigue policière.
C'est Gemmell, donc ce qui est important, voilà. C'est les personnages.
Exactement, donc c'est plutôt le côté effectivement social qui va être intéressant, mais il y a également un siège. Vous avez un des deux romans, donc, Chevalier Blanc, Signe Noir ou Le Masque de la Mort, qui contient un siège d'un commissariat de police, me semble. Donc voilà, comme quoi on peut adapter les sièges à toutes les époques.
Et après, on a aussi quelques one-shots qu'on peut titrer, des romans, on va dire, plus à part, qui sont...
Les meilleurs
qui sont... Oui, voilà. Bah, les meilleurs. Non, le meilleur, c'est Légende, de mon point de vue, mais c'est là où on pourra peut-être plus orienter les gens qui sont un petit peu réfractaires au style la bagarre. Par exemple, je pense à Renégat, ou un que j'aime bien, L'Étoile du Matin. Donc en fait, dans les romans indépendants, on a Renégat en 89, L'Étoile du Matin en 92, Narcoon en 96 et L'Écho du Grand Champ en 97. Donc ils sont pas dans le cycle de Drenheim, mais par exemple, Renégat se passe dans le monde de Drenheim il y a fort, fort longtemps. Ils ont une unité géographique, mais pas une unité temporelle.
Renégat, hein, pour l'info, hein, c'était déjà sur le marché français bien avant Légende. C'était déjà en poche depuis, corrigez-moi si je me trompe un moment, hein, puisque ça avait été pris par Nemos.
Alors oui, tu te trompes, parce que Légende est paru en 2000 et Renégat est paru en 2002 chez Nemos.
Ah bon? Oui. Ah bah, my bad.
Il disait qu'il n'y avait pas de twist.
Voilà. Merci pour la correction.
Voilà. Alors, de rien. Vous avez aussi l'étoile du matin, donc qui pareil sur le même monde, mais qui est un petit peu à part. C'est alors celui-là, je l'aime assez parce qu'en fait, il part de l'idée que justement, faut rester dans la thématique des légendes, etc. C'est en gros l'histoire d'un barde qui raconte l'histoire du héros qu'on appelle l'étoile du matin, et en fait, il raconte sa véritable histoire. Donc, c'est comment en fait l'histoire devient une légende. Et la légende devint un mythe. Et ça, c'est une dédicace pour Foradan. Mais voilà, celui-là, je trouve qu'il a un écho particulier dans l'œuvre de Gemmell de par sa thématique. Vous avez aussi Dark Moon. Donc Dark Moon, on va être plus sur une guerre, mais une force maléfique ancienne qui revient, etc.
Avec Caris.
Et puis des géants anthropophages, attention.
Avec le héros qui s'appelle Caris, avec un seul art.
Et l'écho du grand chant qui est sur la chute d'une civilisation et comment elle s'accroche en fait pour ne pas disparaître.
C'est la chute d'une civilisation esclavagiste raciste qui se fait envahir
par des esclavagistes racistes.
Voilà.
Donc.
Le monde de merde.
Voilà. L'idée, c'est de. Ils savent condamner, donc autant y aller, quoi.
Voilà.
Mais là, il y a un petit, je vais dire un petit cliffhanger à la fin, mais il y a une petite surprise. Donc, alors qui est pas non plus, attention, la révélation du siècle à base de je suis ton père, hein, mais bon. Comme quoi, il était capable de faire des choses un petit peu plus originales sur les fins.
Ok. Eh ben voilà, on a dressé un petit peu le portrait de ces écrits, de ces 33 ouvrages. On va revenir un petit peu quand même sur les héros gémelliens, ces figures solitaires. Alors, est-ce que c'est un choix volontaire pour préserver les autres, ces figures-là? Est-ce que c'est le destin qui s'impose à eux?
Qu'est-ce qui caractérise les héros de David Gemmell, si ce n'est avant tout la violence? Souvent, ils sont intelligents. Hein. C'est pas des gens bas du front. Mais la violence résout une bonne partie des problèmes du monde de Draenei. C'est prégnant dans Légende parce que le prologue, c'est une discussion entre ambassadeurs. Et ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, on va se taper dessus. Puis on verra qui est le plus fort. Il y a aussi le côté du héros. Du héros présenté comme imparfait, bourru, alors qu'il a pris une flèche dans le genou, ou une flèche dans le coude, ou qu'il a mal au dos, voilà. Mais qui finalement, tant pis, hein, j'y vais quand même, parce que bon.
Ouais, voilà. Ils ont tous un abonnement chez le kiné. Ça c'est
ou clair, chez la psy.
Ouais, ou chez le psy. Bon, ouais, en fait, c'est vraiment les vieux briscards fatigués. À la différence des RPG japonais où les vieux briscards fatigués vont avoir 21 ans, là, ils ont...
J'ai tout vu. J'étais là, Gandalf.
J'étais là il y a 3 ans. la différence, c'est qu'eux, ils ont vraiment vécu. Ils ont eu une histoire. Et c'est ça qui va les rendre intéressants. Le souci, c'est qu'effectivement, ils ont beau s'être pris une flèche dans le genou. Hein, on rappelle que Drus, il a mal au dos. Donc, il a vraisemblablement plus qu'une lombalgie et il a un genou qui lâche. Mais bon, il peut quand même défourailler du nadir, donc de l'envahisseur, à tour de bras. C'est pas trop un problème, quoi.
Après, il se fait masser souvent dans les gens, non?
Ouais, mais c'est important, hein, pour la récupération.
Mmh. J'imagine. Il fait de la cryothérapie aussi, je sais pas.
et c'est aussi qu'ils sont souvent vieux, hein. Sauf quand on raconte la jeunesse du héros, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans le contexte de l'époque dans laquelle les romans étaient publiés, on avait souvent, on en a parlé lors du précédent podcast, l'adolescent fermier qui se dit « Ouais, je vais sauver le monde, c'est mon destin. » Là, non, c'est là, non, gamin, tu restes là, tu laisses faire les professionnels. Généralement, les jeunes, dans Gemmell, ils sont soit morts, soit ils deviennent vieux ou qu'ils deviennent bons, soit ils se disent « Ouais, non, c'est pas pour moi. » Ce qui peut permettre de changer le monde, c'est l'expérience. C'est l'expérience du combat. Et plus encore, et je pense que là, on en revient à l'aspect biographique de l'œuvre, c'est l'expérience de la vie. Il faut avoir vécu des choses, il faut avoir souffert, il faut avoir fait face à des désillusions, à des peines, pour vraiment prendre toute la valeur justement de la vie et de se dire, ben c'est pas parce que moi j'ai pas reçu autant que je voulais ou que la vie m'a joué des mauvais tours que obligatoirement je dois laisser le monde partir à volo et ne rien faire alors que j'en ai la force, la volonté, le talent, ce qu'on veut. J'ai écrit dans le plan que les héros guéméliens ne partent jamais vainqueurs et pour eux chaque combat est peut-être le dernier et ils y vont quand même et c'est ça qui est beau. Voilà. Alors j'ai écrit ça en majuscule, mais en fait c'est des vieux et enfin des vieux, on va dire des notions médiévales. Hein, 40 ans, ils sont vieux. Bah, ils ont pas envie d'y aller. Franchement, la plupart, en fait, on les embête. C'est bon, j'ai déjà donné. C'est souvent des anciennes gloires ou des vétérans qui en ont trop vu, mais qui se disent bah de toute façon, il y a plus que nous. Et c'est un petit peu dans le cas dans la quête des héros perdus. C'est bah, si on n'y va pas, bah, qui est-ce qui y va?
Bah c'est sûr que s'ils ont déjà participé à 12 sièges, un 13e, c'est quand même beaucoup.
Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais par exemple, Drus, c'est pas un héros. Drus, ce qui l'intéresse, c'est sauver sa femme. Hein. Par la force des choses, il est amené à sauver le monde. Mais à la base, lui, il veut juste couper du bois, tel Charlingal de Drenaï, et vivre tranquille avec sa femme dans sa petite vallée.
Et même par rapport à Drus, et le fait que justement, bah, il n'ait pas d'enfant, qu'ils n'aient pas pu en avoir avec sa femme, etc. T'as toute cette question autour de qu'est-ce que moi je transmets, parce que finalement, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pas transmis, j'ai pas de descendance. Et Drus le dit, hein. Drus le dit, j'ai pas de descendance et tout. Ce qui est quelque chose, je trouve, d'assez rare hein, dans les récits de fantasy. Et moi, je me rappelle qu'on lui dit clairement, en fait, tu te rends pas compte de ce que tu vas laisser pour les générations futures.
Bah, il transmet ses valeurs.
Il transmet, c'est ça, c'est le message de Gemmell à travers ça, c'est il transmet ses valeurs, et finalement c'est bien plus important et ça a bien plus de poids que sa descendance finalement.
C'est vrai. Donc, ce qui se lègue dans le cycle de Drenaï, c'est des légendes, des armes et des armures.
C'est ça. D'autant plus qu'il faut ajouter que le papy de Drus, à la base, c'est vraiment un vrai, vrai méchant. Donc, il y a en plus un problème par rapport à ça.
Il a quand même une sacrée hache.
Il a une grosse hache. Ouais.
Elle coupe pas que du bois, celle-là.
Oh, oui, mais à la base, le grand-père de Drus, c'est un fou sanguinaire, etc. Bref. On a Gilosen qui trépigne.
Oui, mais c'est pour, encore une fois, faire le modeste interprète des absents. Mais parmi tous ces vieux briscards, on peut. Enfin, Aka soulignait l'exception qui confirme la règle, si on peut dire, avec notamment le lion de Macédoine qui se démarque, puisque le cycle commence avec la jeunesse donc de Parménion, qui n'est pas encore général, et son apprentissage à la dure dans une cité de Sparte qui le méprise de par ses origines. Et c'est vrai que dans ce cycle-là, finalement, plus que la force physique brute ou l'habileté en duel ou au combat de façon générale, ce sont souvent ces capacités de stratège qui sont mises en avant. Ah, non pas que Drus ne soit pas un stratège en tant que tel, hein, mais bon, un peu quand même, non, quand il prépare les défenses.
Il dit toi, mets-toi là. Et
oui, voilà. Oui, bon, d'accord.
C'est un stratège à la Gotmog, quoi. Les lanciers devant et les archers derrière.
Oui, bon, bah, j'essayais d'apporter la dimension.
Une échelle de Goodkind, ça vaut 12 sur 10. Mais je veux dire,
ça manque de poulet.
Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour hein, des héros guéméliens ou est-ce qu'on...
Bah, ils sont quand même souvent sur le même modèle. Hein, donc
on c'est le souci qu'on va avoir de toute façon avec Gemmell. Hein. De toute façon, on le dit depuis le début de ce podcast, cette émission, ça reste très sympa à lire, mais effectivement, c'est un peu tout le temps la même histoire, un peu tout le temps le même modèle même de héros, quelque part. Voilà.
Maintenant qu'on a parlé des héros, on peut peut-être parler des héroïnes.
On peut peut-être parler des héroïnes, et on va surtout se demander où sont-elles.
Où sont les femmes?
Où sont les femmes
comme chantait David Gemmell.
Oui.
Mais oui, bah, ça part d'une remarque notamment de Anna sur le forum, qui était pour le podcast précédent, en fait, mais sur la fantaisie à papa ou papy, mais qu'on n'a pas vraiment exploité. Donc elle nous disait qu'elle trouvait que Gemmell faisait partie de ces écrivains hommes, donc qui savent camper incroyablement bien le personnage féminin. Un peu comme Guy Garriel-Kay, avec notamment des voilà, est-ce que la déconstruction des rapports hommes-femmes est présente chez l'auteur. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question en préparant le podcast, on cherchait un peu, et finalement, moi je suis pas le plus grand lecteur de Gemmell qui soit, mais j'en ai lu quand même beaucoup, et j'ai eu du mal à retrouver des personnages féminins qui pour le coup m'avaient marqué, alors que justement j'apprécie les personnages féminins bien construits, etc. Et je suis d'accord par contre que chez Kay, c'est clairement un de ses atouts, mais chez Gemmell, c'est vrai que j'ai eu du mal à retrouver ce parallèle. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé.
Bah, y a pas d'héroïne. Pas de personnage principal féminin.
Si dans
Regante, déjà.
Reine des batailles, aussi.
Ah, ok, d'accord. Donc, mais sur 33 bouquins, je suis pas sûr qu'on atteigne ne serait-ce que... Allez.
Bah, y a, si tu comptes les 4 tomes de Regante et que tu comptes, je crois, Dark Moon avec Caris... En héroïne, en personnage principal, je vois que c'est de là. Après, il y a des personnages féminins récurrents.
Parle de personnage principal.
Eh ben, je dirais deux.
Deux sur 33, on n'est même pas à 10%.
Ouais. Bah, deux séries.
Ouais, deux séries.
Okay. La Reine Faucon et Dark Moon qui est un one-shot. Mais sinon, comme ça, de mémoire, effectivement.
C'est extrêmement dur à trouver parce que, malheureusement, il va y avoir, enfin, c'est le problème, enfin, c'est un des gros problèmes de que moi aussi j'ai avec Gemmell, c'est les archétypes, ces archétypes féminins, c'est, enfin, les femmes, elles font la tapisserie, quoi. C'est malheureusement, pour moi, il y a deux modèles féminins qu'on retrouve dans ces romans. C'est Virae dans Légende, pardon, qui est l'archétype de, je cite l'auteur, la femme pas vraiment belle, mais qui ensuite, aux yeux de son mari, amant, époux, ce que tu veux, va devenir la femme la plus magnifique du monde. Et donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, ça va être l'archétype de la femme qui va se définir principalement par sa sexualité épanouie, etc. Donc moi, c'est ça qui va me gêner. Et là où je trouve que l'auteur et son style ont vieilli, enfin quoi, voilà.
Tu peux le dire, hein, je veux dire.
Pour moi, c'est un vrai souci. En tout cas, c'est effectivement le commentaire de Anna. Faudrait qu'elle nous dira un petit peu en forum, hein, si peut-être qu'elle pense effectivement surtout à Regante, peut-être ou à l'autre série que vous avez citée, Dark Moon, je crois.
Dark Moon, c'est un one shot.
Voilà, ouais. Mais personnellement, dans les autres ouvrages de Gemmell, on va pas trouver ça, quoi. Le.
Ben. Soit la femme fait tapisserie, voilà, hein, clairement, elle a autant de prestance qu'une brique, et c'est triste, hein, non, mais c'est vrai, ouais, soit, ouais. Elle sert de MacGuffin, en fait.
Bah, comme pour Drus.
Pour Drus, voilà, sa femme, c'est sa femme, c'est la femme de Columbo.
Voilà.
Elle est là, on sait qu'elle existe, on sait des choses sur elle, mais... voilà, ma femme.
Elle résoudra pas les énigmes pour son mari. Oui, Gilles Hossein.
Oui, j'avais noté Andromaque dans la trilogie donc de 3. Et je vois que Aka l'avait cité aussi, puisqu'il trouve lui aussi qu'elle occupe une place finalement assez importante, surtout dans le deuxième tome de la trilogie. Et Aka nous citait aussi, Shalmy sur le forum. Alors, Shalmy qui s'était lancé dans une relecture totale du cycle.
Une exégèse.
Et qu'on remercie au passage parce que c'est sa relecture et ses commentaires en forum nous ont beaucoup aidé à préparer ce podcast. Donc, s'il nous écoute,
c'était une expérience. Reviens, Shalmy.
Oui, déjà, reviens parce que c'était hyper intéressant. Et on te remercie encore parce que ça nous a énormément aidé pour préparer ce podcast.
Oui. Et donc, il disait que c'était peut-être lié à son côté chrétien ou à sa vision du héros qui est avant tout un combattant, comme on l'a déjà dit, hein. Mais il trouvait, et je crois qu'on sera d'accord, que Gemmell avait toujours du mal avec ses personnages féminins. Donc, on l'a dit, il n'y en a presque pas qui sont au premier rang. Et les rares exceptions, voilà, on retrouve le franc-parler de notre ami forumer, mais il trouvait que les exceptions, les rares exceptions sont plutôt lamentables. Donc, comme avec Caris dans Dark Moon et Sigarny, donc la Reine Faucon. C'est vrai que ça, pour avoir cherché un peu, Sigarny, ça revient souvent, même sur les forums américains, comme un des personnages les moins appréciés de Gemmell. Et puisque donc là, Shalmy résume à une nymphomane égoïste, voilà, qui adore tuer. Voilà, je cite encore une fois. Et Gemmell disait lui-même dans une interview qu'il détestait le personnage. Mais après, il y a aussi quelques exceptions à cela, comme Maeve dans Rigant et Andromaque, on l'a déjà dit, donc dans 3, ou Gianna dans Draenei, dans le cycle de Draenei. Alors j'avoue, je me rappelle pas trop du personnage, j'ai honte. Là, c'est moi qui parle. Et Alizia dans 3 encore. Mais de manière générale, voilà, ces personnages féminins sont quand même assez assez ratés, parce qu'elles sont, pardon, assez finalement d'un bloc, hein, monolithique dans leur réaction ou leur caractère. Elles tombent amoureuses du premier beau gosse venu. On l'a dit aussi, sinon il faut soit il faut les sauver. Donc c'est un peu une place. Voilà, c'est portion congrue et quand même un peu limitée, quoi, comme vision, et même sur un plan strictement littéraire, c'est dommage de se limiter à ça, quoi.
Ah non, c'est sûr.
Surtout que Druss pourrait, bon, là, on a dit qu'il n'avait pas d'enfant, mais sinon ça aurait pu être son fils ou sa fille qui était enlevée, enfin tu vois, qui est pas forcément sa femme, mais là ça fait vraiment Mario et la princesse.
Voilà, c'est à ça que je pensais, effectivement, ça fait vraiment Mario, ça fait une espèce de version fantasy un peu sombre de Mario et la princesse. Ouais.
Ben, désolé Druss, ta femme est dans une autre forteresse et hop, un nouveau siège.
Ouais. Voilà, avec plein de murs de nouveau.
Ah, la fantaisie à mur.
Mais oui, voilà, enfin, on est désolé, on a cherché, mais pour le coup, je pense que là, on est trois à ne pas être vraiment d'accord avec, ouais, avec l'affirmation sur le forum. J'arrive pas à voir la déconstruction évoquée, quoi. Enfin, des rapports hommes-femmes.
Ah non, moi non plus. Non.
Bah, surtout que Gemmell dit lui-même que ça le saoule d'écrire des personnages féminins principaux.
Voilà.
Donc, que... à partir de là, je pense qu'on aura beau discuter du problème dans tous les sens. Il aime pas, ouais, il aime pas, et ça se ressent.
J'avais pas la citation, mais comme tu dis, ouais, il y a ce côté ressenti qui est assez, pour nous, là, modestement, nous paraît assez, assez évident.
Ouais. Donc voilà pour cette question-là. Je voudrais qu'on aborde un petit peu le David Gemmell antique. Je parle pas des prédécesseurs de Gemmell. Hein,
Les pré-Gemmelliens.
Les pré-Gemmelliens. Ah, ça, c'est,
peut-être que le grand-père de Gemmell avait une hache.
Peut-être une hache maudite avec un démon à l'intérieur. Non, je voudrais qu'on aborde un petit peu, bah, effectivement, on a commencé à en parler, mais le lion de la Cédoine, 3, c'est quand même assez, assez spécifique. C'est quand même quelque chose qu'il a. Je crois que c'est Gitana, parce que tu dis qu'il a réussi à caser quand même la source dans 3. Moi, la source, ça m'évoque beaucoup Buffy contre les vampires. Hein. Je suis désolé, mais.
Tu peux, avec des références comme ceci, on accepte.
Ah, je suis pas très très fan, hein, personnellement, mais
on en fera un podcast.
Voilà, ouais. On reviendra dessus. Personnellement, moi, c'est la partie historique de Gemmell. On l'a évoqué précédemment, mais ça lui évite le côté carton-pâte parce que il est obligé de faire des recherches. Et en plus, comme Gilo, tu le disais tout à l'heure, ça évite, comme on a un petit peu cet imaginaire collectif, Sparte ou le siège de Troie. Ben, tu vas, ça va être beaucoup plus facile de modéliser, d'imaginer le background, en fait, ce qui se passe autour des personnages, la vie qu'il y a autour des personnages. Pour moi, c'est pas une béquille, mais je trouve que, en fait, ça l'aide, lui, ça gomme, en fait, un des défauts que moi, je vais trouver un peu parfois rédhibitoire dans ses écrits.
Ouais, alors des recherches, visiblement, il en faisait quand même pas trop, hein, en tout cas, pour le lion de Macédoine, c'était pas ce qui l'obsédait le plus. Mais je te rejoins, et Aka te rejoint aussi, avec le côté, finalement, vu que l'univers est déjà là, comme tu dis, t'as pas à t'embarrasser à le construire, hein, comme c'est pas ce qui l'intéresse le plus, ces univers-là antiques, plus ou moins respectueux de ses sources d'inspiration, il lui reste plus qu'à s'intéresser à ses personnages, et c'est ce qu'il préfère, et c'est ce qu'il fait de mieux, finalement. Et voilà, et Aka fait remarquer que ça lui permet aussi de glisser quelques belles citations de temps à autre, hein, comme « Merveilleux sont les Athéniens, ils élisent un nouveau général tous les ans, moi j'en ai connu qu'un seul, Parménion », ce qui est logique, hein, puisqu'on est dans le lion de Macédoine. Mais oui, moi je c'est quelque chose que j'aime bien chez l'auteur, parce que aussi ça change effectivement de ses cadres habituels, qui sont parfois un peu interchangeables, et encore, on a vu qu'entre un John Chano et Draenei, c'est pas du tout la même ambiance, mais voilà, ça lui permet de basculer sur autre chose.
Ouais, c'est vrai. Et juste petite anecdote, hein, par rapport au dernier tome de 3, donc 3 est une trilogie. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait, mais apparemment, on sent vraiment la transition, parce qu'on l'a dit en début de podcast, mais Gemmell est décédé au moment même où il écrivait le tome 3 de 3, justement. Et donc, ça a été terminé par sa femme, Stella Gemmell. On sent vraiment l'exact moment, en fait, où Stella Gemmell reprend l'écriture. Je voulais juste le citer, c'est une anecdote qui n'a pas grand-chose à voir, mais comme on parlait de 3 et du long de Macédoine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, apparemment, beaucoup de gens ont senti la différence de prose, de style.
Bah, visiblement, on sent la différence, de toute façon, entre ce qu'elle avait écrit elle-même aussi.
Ouais, je sais pas si on va y revenir ou si on en parle maintenant, mais peut-être tout à l'heure. On évoque depuis tout à l'heure un peu les limites de l'auteur, donc qui a quand même tracé un sillon aisément reconnaissable, qui a une véritable identité dans la fantasy, mais effectivement, bah, il a des limites. Hein. Le style, qui est quand même très passe-partout, sans fioriture. Dans le meilleur des cas, je sais plus qui le disait hein, sur le forum, que dans le meilleur des cas chez Gemmell, c'est en fait, tu vois pas le style. Et je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse lui faire, c'est que dans les moments où il écrit bien, on voit pas qu'il écrit bien. Il n'y a rien de gênant, en fait. C'est ça. Mais vous n'allez pas vous relever la nuit en vous disant waouh, ça, c'était vraiment un sacré passage. On a Giltanas qui secoue la tête.
Je sais pas dans le sens que tu donnais quand tu disais que le style est très passe-partout sans fioriture, parce que pour moi, c'est justement la grande force de l'auteur. C'est qu'en fait, il s'encombre pas de décrire que le manteau de tel seigneur du tome 11 de la Roue du Temps est orange, il suit le cercle chromatique de telle région, etc. Il y a des gens qui aiment, hein, il en faut, mais...
Le poème à rallonge, comme Steven Erikson.
Voilà, c'est, après, il en faut pour tous les goûts, etc. Mais quand tu dis qu'on va pas se relever la nuit pour relire des passages, je suis pas d'accord, parce qu'il y a quand même des sacrées citations. Et c'est maintenant que je place ma citation préférée.
Vas-y.
Donc, ma citation préférée de mon roman préféré de Gemmell, donc La quête des héros perdus, à un moment donné. Et pour moi, cette citation, c'est pour ça que je la place, pour ceux qui suivent un peu le forum, déjà savent que c'est ma signature. Et en plus, je la place partout, à chaque fois qu'on parle de citation, de machin. C'est à un moment donné, dans le roman, il y a un des personnages qui revient et qui dit, donc je vais citer, « Vous ne pouvez pas attaquer l'armée Nadir à vous trois, déclara Arrokas. Que proposes-tu ? À quatre, ce serait plus équilibré. » Et pour moi, en fait, ces trois phrases, c'est la substance de Gemmell, en fait. C'est OK, on va se battre, on va mourir, mais on est quand même des héros et on y va, quoi. C'est Gemmell in a nutshell, comme on dit en anglais. Voilà. Alors oui, c'est pas des grandes phrases très bien construites, etc. Là-dessus, c'est vrai que le style littéraire. Alors après, je sais pas pour vous, moi je l'ai lu que en VF.
Moi aussi.
Donc, je sais pas si ça gagnerait ou pas être lu en VO. Je ferai peut-être le test. Mais encore une fois, le propos de l'auteur, c'est pas des grandes phrases. C'est sujet, verbe, complément. Point. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. Il n'y a pas beaucoup de virgules hein, dans Gemmell. C'est point. Voilà. Et le style nerveux, en fait, colle bien avec les scènes d'action. C'est sûr que dans les scènes, on va dire, un peu plus posées de développement, et là, je mets des énormes guillemets en gras, ça peut poser quelques soucis. Après, il a, comme tous les auteurs, ses petits tics d'écriture. Mais dans l'ensemble, je trouve que justement, le style se prête bien à la bagarre, à la violence, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de... Alors, je ne sais plus qui, je crois que c'est encore Chalmy qui en parlait, donc gloire à lui, hein, que la source le bénisse, mais qui disait que quand Gemmell, il disait que ses personnages mangent, bah, ils mangent de la nourriture. On s'en fout de savoir ce qu'ils mangent, en fait. C'est pas important dans ce récit-là.
Et ça t'ouvre pas l'appétit, du coup.
Ce qui m'a fait beaucoup fait rire, c'est que Chalmy disait que, sur le forum, que tous les héros de Gemmell ont le score. Parce que je vous mets au défi, si vous lisez Gemmell, de trouver des héros qui mangent autre chose que du pain, du fromage et de la viande.
Dans le Lion de Macédoine.
Ils mangent du pain, du fromage et de la viande.
Et du raisin.
Et du raisin dans
le monde. Tu vois, c'est mais on peut chipoter.
On peut, voilà.
Mais oui, c'est vrai que dans l'ensemble. Mais voilà, ils s'embêtent pas à décrire les armes, les vêtements. Et c'est vrai, hein, c'est. Pourquoi faire ? C'est pas ce qu'on cherche, en fait. C'est pas ce que lui cherche à nous transmettre.
Gilles Austin a dit pour pas qu'il soit tout nu.
Certes, mais il me semble que Drus, à un moment donné, il finit par se battre en slip. Mais
c'est un ouais, mais il reste encore un petit truc.
Non, attends, il est pas à poil. Je ne me rappelle plus.
Bon, bref, il est dénudé.
Ouais. Bah, voilà, moi, mon côté. Non, pardon, vas-y.
Non, moi, c'était juste pour dire que finalement, le côté descriptif, c'est pas le style de l'auteur. Et quand on sait où on est, après en avoir lu un ou deux, c'est pas ce qu'on cherche.
Ah oui, bah après, oui, tu finis par te dire qu'effectivement, au bout du cinquième, oui, tu vas te dire, il va pas changer brutalement de style, hein, ça c'est clair.
Ah oui, non.
Non, mais il va mourir du scorbut.
Voilà. Je suis d'accord avec toi que, en fait, il faut que le style aussi, finalement, s'adapte au type d'histoire. Mais bon, je vais pas paraphraser Safron qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui justement a en partie justifié son absence au fait que le peu qu'elle avait lu de Gemmell, elle avait laissé, comment dire, perplexe. Et je suis gentil. Mais quand tu disais sujet, verbe, complément, c'était un peu ce qu'elle mettait en avant, et aussi ben, le fait que les personnages lui ont pas paru très très profonds visiblement. Moi, c'est vrai que c'est plus la redondance, parce que le style, effectivement, vu que tes histoires, bah, en même temps, c'est lié à la redondance, mais vu que le style, tes histoires se ressemblent, donc à la limite, bon, voilà, mais on l'a dit avec un petit sourire, même pas moqueur tout à l'heure, hein, c'était plus, finalement, on le dit, je pense, avec gentillesse, et même avec bienveillance. Mais bon, Waylander, c'est un peu, voilà, on l'a résumé, quand tu résumes le héros, il ressemble beaucoup à Drus, il y a beaucoup de héros qui se ressemblent, beaucoup de situations qui sont les mêmes. Après, moi, c'est vrai qu'en tant que fan de Moorcock, il y avait voilà, le côté le loup blanc, pour moi, c'est vraiment Elric, tu vois, ça se fait pas de reprendre les surnoms des autres, même si c'est pas un surnom très, très original en soi, hein. Mais après, ouais, je sais pas, moi, c'est plus, ouais, vraiment la redondance qui a fini par me lasser, hein. D'ailleurs, le problème, c'est que quand toutes les histoires se ressemblent, quelque part, je trouve que ça amoindrit la portée de chacune. Voilà. Après, il y a quelques héros, et finalement, c'est plus les personnages que je retiens, effectivement, que les histoires. Mais comme tu dis, du coup, on a plus tendance à dire j'ai lu du Gemmell que j'ai lu tel titre de l'auteur, quoi.
Ah ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, Gemmell, je pense, c'est même les fans le reconnaîtront. Encore une fois, descendez-moi en forum si j'ai tort. Pour moi, il brille d'autant plus, son œuvre, elle est d'autant plus intéressante quand tu la lis, j'allais dire, pas toute seule. C'est-à-dire quand tu vas lire de temps en temps un Gemmell, ou tu lis, par exemple, tu vois, typiquement, j'ai attaqué le tome 9 d'Erickson. Si je le finis, quand je l'aurai fini, je peux enchaîner sur un Gemmell. J'ai pas l'air, c'est logique, mais je pense que c'est, il fait partie du genre de la fantasy, et il a vraiment sa. Je trouve qu'il s'intègre extrêmement bien parce qu'il apporte quelque chose. Il apporte vraiment une patte particulière, la patte David Gemmell, qui n'est pas égalée. Par contre, effectivement, c'est un petit peu comme le macaron à la pistache. Ça a beau être le meilleur dans la boîte, ou en tout cas un des meilleurs. Bah, si tu en manges 19 d'un coup, au bout d'un moment, tu vas te lasser parce que c'est le même goût, c'est exactement la même texture, la même saveur, etc. Donc, par contre, effectivement, mélangé à d'autres auteurs, d'autres romans de fantasy, je trouve qu'il s'intègre très bien.
Tout à fait. D'autant plus que, étant donné que l'univers est assez déconstruit, il n'y a pas de barrière ou de. Vous n'aurez pas de blocage à lire un tome du cycle de Draenei, quel qu'il soit. Vous pouvez les lire dans le désordre, etc. C'est pas gênant. Vous pouvez en lire un, puis trois ans après un autre. Vous n'allez pas être perdu, en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que encore une fois, c'est du divertissement. C'est pas du divertissement dans le sens, par exemple, c'est pas le Cyril Hanouna de la fantasy. Hein. Voilà, c'est du divertissement dans le sens où vous pouvez tout à fait lire du Erickson, du Sanderson, ce que vous voulez, et lire un Gemmell, parce que ben c'est percutant, c'est le rythme est assez soutenu. Il y a énormément de défauts, hein, on les a déjà pas mal listés. Mais voilà, ça vient très bien s'imbriquer entre deux lectures un petit peu plus exigeantes.
Ça vient pas dénoter.
Et c'est pas pour autant que c'est moins bon. C'est juste différent, en fait. Et c'est assez unique dans son genre parce que on l'a dit au début, mais on a beaucoup mis en avant le style simple, mais c'est un style qui a été rarement imité, voire jamais. Je vous conseillerais pas, par contre, de faire ce qu'a fait Chami, c'est-à-dire de tous se les taper en 120 jours. Là, effectivement, c'est l'overdose assurée, clairement, d'autant plus si vous enchaînez tous les Draenei, que ce soit par ordre chronologique ou par ordre de parution, vous êtes certain de faire une overdose. Et je pense que même le fan le plus hardcore, c'est un coup à le dégoûter. Mais si vous avez jamais lu de Gemmell ou si vous en avez juste lu un ou deux, vous pouvez limite piocher dans n'importe quoi, même si j'aurais plus tendance à vous conseiller les one-shots que les séries. Mmh. Parce que, par exemple, Rigant, même si c'est très bien, je pense que se faire les quatre d'un coup, c'est peut-être pas le bon plan. Peut-être en faire un, autre chose, le second, etc.
Ouais, ça se lit très bien en picorant, effectivement.
C'est une métaphore que j'utilise beaucoup sur le forum, mais c'est une boîte de bonbons.
C'est par saut de puce. Ouais.
Voilà. C'est ah, j'adore les bonbons. Ah bah ouais, mais si on mange tout le paquet, on est malade.
T'as repris mon analogie du macaron à la pistache.
Ouais, mais j'aime pas le macaron à la pistache. Donc, mais j'aime Gemmel, au cas où voilà. Vous auriez pas encore compris.
Ok. Question un peu à part, mais ça me paraît important qu'on en discute. Pourquoi est-ce que donc Gemmel, nous paraît, enfin en tout cas, il est en France, dans le milieu de l'imaginaire français, on le présente plus. Au Royaume-Uni, non plus. Par contre, il s'est quand même assez peu vendu dans le monde, c'est le cas de le dire. Il est à peine dans le top 200 des meilleures ventes d'auteurs d'imaginaire, tout imaginaire confondu. Donc il est à, pour vous donner un peu des chiffres, un peu plus de 2 millions d'exemplaires vendus. C'est très bien, hein. C'est pratiquement les mêmes ventes que Jacqueline Carré, que Fay Keuchel, que Gregory Benford, que Greg Bear. Mais c'est pratiquement deux fois moins qu'Erickson, qu'on pourrait dire un peu niché dans son genre. C'est beaucoup moins que c'est moins que Brent Weeks, qui, à la différence de David Gemmel, est nul.
Là, je pense qu'on sera tous d'accord, mais
il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise.
on va pas dire nul, mais qui est moins bien, beaucoup moins bien.
Beaucoup pas bien. Bref, voilà, n'hésitez pas à venir en discuter encore une fois en forum. En tout cas, il y a un souci de vente, enfin chez Gemmel, et on peut l'expliquer notamment parce que il s'est jamais vendu aux États-Unis. En Amérique du Nord, David Gemmel, il n'est pas connu. Et j'en veux pour preuve notamment, vous lisez des interviews d'auteurs américains, canadiens, jamais, au grand jamais, ils vont vous dire « moi, j'adore Gemmel ». Jamais.
Là, tu peux être sûr que quelqu'un va trouver l'interview avec un seul auteur qui...
Ouais, c'est ça.
ici, Gemmel est son modèle.
En fait, c'est très vrai parce que dans les gens, on va dire, qu'on pourrait classer comme les continuateurs, il y a beaucoup d'auteurs anglais.
Et bien sûr.
Il y a beaucoup d'auteurs anglais. Bah, moi, je pense aux auteurs de la Black Library qui travaillent pour Games Workshop, notamment pour les romans Warhammer. Il y en a deux sur les 11 ans qu'a vécu le prix David Gemmel qui ont remporté le David Gemmel Award. Et c'est vrai que... Alors, moi, je me demande si il n'y a pas, nonobstant l'histoire de géographique, etc., s'il n'y a pas aussi une mauvaise réputation qui s'est installée sur l'auteur. Nous, on en parle en tant qu'amateur éclairé du domaine de la fantasy, mais je pense qu'aujourd'hui, Gemmel, pour le lecteur de fantasy lambda, sans aucun aspect péjoratif, hein, pour lui, Gemmel, c'est un peu comme du Marcus Hayes avec les nains ou du Stan Nichols, tu vois, c'est de la fantasy un petit peu... comme avant, un peu bas du front, ouais. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est plus ce que les gens recherchent visiblement. Alors, on pourra en débattre pendant 107 ans. Hein. Du coup, je me demande, et ça n'engage que moi, s'il n'y a pas une espèce de mauvaise image qui lui colle à la peau, qui fait que, bah, même si ça se vend de manière continue, parce que même Gemmel le reconnaissait dans ses interviews en disant « les gens n'ont jamais éclaté les ventes, mais depuis 84, ouais. il se vend. » Voilà, il se vend. Tout le temps un peu. Alors après, en France, il est ultra connu parce que Brage a matraqué. Hein, faut être réaliste. Ça a été leur cheval de bataille, leur tête de gondole, tout ce qu'on veut. Donc il est assez connu en France. Il est connu au Royaume-Uni, mais à part ces deux pays-là, il n'est pas.
C'est d'autant plus curieux, si tu veux, que l'auteur n'est jamais percé aux États-Unis. C'est quand même hyper paradoxal parce que ces histoires, c'est. Il y a un côté, on l'a dit, très emprunté à la mythologie américaine.
Oui.
On est quand même. Il a, de par sa référence, j'allais dire Jean-François Lamour.
Louis Lamour.
Louis Lamour, exactement. De par sa référence, de par, de toute façon, les histoires, on parlait du Clint Eastwood de la fantasy. Enfin, il y a vraiment ce côté mythologie américaine, héros. De l'Ouest américain, ce côté très western. Et le problème, c'est que est-ce qu'il n'était pas un peu, je ne vais pas dire en avance, mais il arrive dans les années 80 avec cette fantaisie-là, qui n'est pas du tout une fantaisie qui est sur le marché américain. Dans les années 80, c'est... Il n'y a pas vraiment d'heroic fantasy, de sword and sorcery. Il y a, sur le marché, il y a Eddings, Feist et Brooks, une approche de la high fantasy qui est quand même beaucoup plus classique, qui est high. C'est-à-dire que bah, tu as le gamin de 15 ans qui va aller sauver le monde. Dans Gemmell, on ne sauve jamais le monde.
Mais disons que quand le gamin veut sauver le monde, par exemple dans la quête des héros perdus, les vieux lui montrent comment parce qu'il ne sait pas faire le héros.
Le monde à l'échelle de Gemmell, c'est un royaume, un empire, c'est pas la planète, en règle générale.
Oui, et encore une fois, c'est que de l'enrobage.
Oui. Voilà.
Il y a pas de. Il y a des prophéties, etc. Mais c'est. En fait, c'est. On sent que même lui, ça le dérange et c'est pas ce qu'il cherche.
Et t'as pas de coming of age, enfin bref. Donc effectivement, tu reçois ce bouquin-là, tu dis je vais le marketer pour qui ? Finalement, donc j'ai même lu quelque part finalement que Gemmell en fait est-ce qu'il écrivait pas finalement un peu de la fantaisie en col bleu, c'est-à-dire des histoires de personnes qui typiquement le héros working class, qui est vraiment de la classe travailleuse et qui tente des choses, qui échoue, qui retente et parfois, souvent ça réussit et ils réussissent avant tout par eux-mêmes et par leurs propres moyens. Et mon Dieu, plus je dis ça, et moins je comprends pourquoi ces bouquins, ils n'ont pas cartonné aux États-Unis sérieux. Alors après, il sera peut-être redécouvert dans quelques temps. Hein. Peut-être que ça reviendra dans quelques années chez eux.
Parce que il suffit que Martin en parle dans une interview ou Sanderson, et c'est parti. Hein.
Ouais.
Je vois pas grand-chose.
Hein. Personne dire qu'il est fan de Gemmell. Vraiment, alors. Mais alors.
Mais personne n'est parfait.
Et puis après, le souci, c'est qu'il a aussi fait beaucoup de stand-alone. Peut-être qu'une méga série autour de Druss, avec toutes les déclinaisons de titres possibles, Légende, Druss la Légende de Marchemort, et aidez-moi parce que là, j'ai plus d'idées.
La Légende de Légende.
La Légende de la Légende. bref, tu vois, peut-être qu'une méga série, tu vois, l'effet un peu collection, ça aurait pu effectivement... fonctionner, ça aurait pu parler.
Mais... Bah, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Parce que, je veux dire, que ce soit nous ou les gens qui sont intervenus sur le forum, on parle beaucoup de nos souvenirs, en fait. Ça remonte à quand, le dernier Gemmell que vous avez lu ?
Au dernier paru.
Ou relu ?
Relu, non, jamais, je crois.
Non. C'est pas interdit que je m'en relise.
Après, je suis peut-être un cas à part, mais moi, genre, les Légendes, je l'ai lu au moins 8 fois, tu vois.
Ouais, t'es un cas à part, ouais.
Le dernier que j'ai relu, La quête des héros perdus, c'est il y a un an. Mais de manière générale, j'ai l'impression que tous les gens qui sont intervenus sur le sujet, sur le forum, parlaient de leur lecture d'il y a 10, 15 ans. Et en disant, pour la plupart, moi, je regarde à mon souvenir et je ne me risquerai pas à le relire. Donc, est-ce que c'est pas aussi un signe qu'aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps ? Parce que oui, il y a ce côté héroïque, il faut s'élever contre l'injustice, quand on en a les moyens, etc. C'est un fait. Mais il y a aussi, on a vu le traitement des femmes, le traitement des étrangers, hein, les nadirs. Oh là, mon Dieu, les nadirs. Voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est un nadir, c'est tout.
C'est un nadir.
Voilà, c'est. Aujourd'hui, je pense que dans les thématiques actuelles, ça peut interroger. Alors, ça pourrait être source d'un débat sans fin sur le contexte, l'époque, etc. Mais je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, ça ait moins sa place dans le paysage par rapport aux attentes du lectorat, qui recherche peut-être plus ça. Parce que c'est intéressant ce que tu disais sur le Clint Eastwood, etc. Parce que pour moi, Gemmell, c'est la littérature Reagan, en fait.
Ah, mais clairement.
Voilà.
Clairement.
C'est le mec. Déjà, c'est le mec. Hein. Il faut que ce soit un gars. Généralement, il est blanc ou dans cette teinte-là. Ouais. Et puis, il est tout seul. Il rejette un peu le système. Il vit un peu en marge. Il se fait lui-même, et puis advienne que pourra.
Est-ce que ça serait pas plutôt Charles Bronson que Clint Eastwood, finalement ?
Non, parce que Eastwood, je sais pas.
Ah, quand même. Il y a,
un côté injusticier dans la ville, sauf que c'est un
justicier. Ouais, mais regarde, Drus, c'est Gran Torino.
Oui, oui.
Ouais.
Mais voilà, c'est peut-être les héros qu'on attend aujourd'hui. C'est un peu peut-être les héros qu'on avait dans notre enfance, pour la plupart. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la plupart des gens aussi recherchent d'autres figures d'attache. Des héros moins genrés, on va dire. Parce que là, c'est quand même... Il faut être gros et fort et voilà. Il faut beaucoup de testostérone. Mais je sais pas. Je me demande si les gens le relisent aujourd'hui, s'il aurait autant cette figure de... Je vais pas dire d'auteur iconique, mais d'incontournable, entre guillemets.
Non, c'est une vraie question. Gilles Ossem, tu...
Non, je dis que c'est la transition parfaite, finalement, avec notre question suivante sur les héritiers de Gamel.
Ouais, effectivement, ouais.
Surtout que ça va être vite répondu.
La question est vite répondue. Donc, a priori...
Il n'y en a pas. Voilà. Enfin...
Il n'y en a pas vraiment, quoi.
Il n'y en a pas de connus. Ouais. On va dire, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, je pourrais citer quelques auteurs de la Black Library, donc l'antenne, on va dire, littéraire de Games Workshop. Je pense notamment, par exemple, à Gotrek et Félix, ou avec cette histoire du vieux héros, ce que Gotrek, c'est un nain, voilà. C'est la figure du héros vieux qui revient combattre, ça revient assez souvent dans l'univers. Mais sorti de ce cadre très spécifique de littérature dérivée, et j'avoue qu'on a eu beau chercher. On a des gens qui ont cité Gabriel Katz ou Paul Kearney.
Mais Gabriel Katz, je me demande si ce n'est pas un peu l'exemple, en tout cas en français, en auteur français, qui s'en rapprocherait le plus. C'est une question. Hein.
Moi, je trouve qu'il y a plus, il y a un côté un peu... Ce n'est pas l'ingrédient principal de ses romans, en tout cas, mais il y a une espèce d'humour parfois un peu... Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas... Ouais. Je ne le mettrais pas direct.
Ce qui pourrait se rapprocher le plus de Gemmel, de ce que j'ai lu et qui est sorti ces dernières années, ce serait Wide.
Ah oui, ouais. De Nicolas.
Le tome 1, avec, où j'ai vraiment fait le parallèle avec la quête des héros perdus, où c'est des vieilles gloires qui reviennent. Ouais, mais voilà, c'est... Mais il n'y a pas le héros... si, c'est un peu les mecs sur le retour et qu'ils y vont, quoi. Mais voilà, c'est pas un calque, hein. C'est ce qui m'a donné le plus la sensation.
Oui, parce que moi j'allais vous proposer, toujours en français, Franck Féric, le chant mortel du soleil chez Albin Michel Imaginaire.
Bah, j'étais pas trop d'accord non plus, pour moi s'il y a un côté un peu plus lyrique, un peu plus Conan.
Ouais. Vous voyez qu'on a quand même bûché, chers auditeurs, pour ce podcast.
Je me rappelle, mais c'est il y a longtemps déjà, hein, c'était Monument chez Brajlon de Ian Graham.
Mais attends, oula.
Que Gemmel, je crois qu'ils avaient utilisé une citation de Gemmel d'ailleurs, et moi j'avais trouvé ce roman affreux, mais vraiment affreux.
Affreux, ouais.
C'était avec un héros qui était, enfin un héros, donc un espèce d'anti-héros, voilà. Qui était un colosse, un poivreau et un vagabond. Et en fait,
il faut que je liste.
Non, mais non, c'est nul. Franchement, si tu veux, je demande à mes parents de t'expédier le bouquin plutôt que tu l'achètes. Parce que
je te prends au mot.
Bah, écoute, si tu veux, parce que là, c'est vraiment pas possible.
Chers auditeurs, vous devez avoir une photo sous les 3 semaines, sinon c'est que Guy Hossein ne tire pas sa parole.
Je m'y engage. Et moi, j'avais été, enfin, et encore, j'avais pas osé être trop méchant, on va le dire comme ça, parce que. C'était la grande époque de Brajlon et nous on était des petits chroniqueurs, donc voilà. Mais j'avais trouvé que le roman était déjà affreusement mal écrit. Et on a dit pourtant que le style chez Gemmel, c'est pas forcément sa priorité, mais là je trouvais que c'est très mal écrit, c'était ordurier dans le sens, il en rajoutait l'auteur. Et chez Gemmel, finalement, il rajoute pas tellement de trucs, même dans le pathos ou dans les trucs glauques. Enfin, il y a pas, là il y avait vraiment une espèce de fascination.
Le viol.
Je sais, honnêtement, l'histoire, j'ai oublié. Hein. Je me rappelle juste que c'était dégueulasse.
De mémoire, je crois qu'il y a ça. Hein.
C'est possible, hein, franchement. Je ne l'ai jamais relu, hein, je ne manque pas. Et je crois d'ailleurs que ça n'a pas du tout cartonné. Et d'ailleurs, l'auteur a mis, je crois qu'il a écrit un autre roman, mais genre 10 ans plus tard, ou si ce n'est pas un peu plus. Et désolé pour lui, hein, y a sûrement des gens qui avaient adoré, hein, je veux pas, voilà, mais moi, c'était vraiment.
Je sais pas si tu te souviens de ta chronique, mais là je suis dessus et tu termines quand même par au final, et même si la lecture demeure prenante, le plus gênant est sans doute de se dire que ce roman ressemble tellement à du Gebel que l'on ne sent aucunement le style de l'auteur, seulement ses faiblesses.
Ouais, c'était bien dit, mais je pense que le fond de ma pensée était sûrement un peu plus violent que ça, je pense.
Oui, on sent que la lecture demeure prenante, c'est la petite phrase politiquement correcte.
ouais, bon, j'avoue, mais honnêtement, ouais, non, c'était un très très mauvais souvenir de lecture et
j'ai hâte de lire ça.
Écoute, tu me diras ce que t'en penses. Et ouais, vraiment, je comprenais pas. Enfin, si, je comprenais finalement que le parallèle. Mais voilà, je veux dire, parfois, il vaut mieux pas être l'héritier de quelqu'un quand c'est, ou pas présenter quelqu'un comme l'héritier d'un auteur quand c'est ça, quoi.
En termes d'auteur anglo-saxon, pour moi, et ça fera plaisir à notre cher camarade Merwin Tonnet sur le forum, je pense que Paul Kearney et son, je sais plus si c'est un diptyque ou la trilogie des Marked, M-A-C-H-T, s'inscrit vraiment dans une tradition gémélienne. Donc, vous avez le premier tome, c'est 10 000, au cœur de l'Empire. Et vous avez Corvus, également. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un, c'est une histoire de siège, également. je suis même sûr, je suis même certain. Vous avez 10 000 au cœur de l'Empire et Corvus, qui sont très, très inspirés, en tout cas, dans l'esprit. On retrouve vraiment vraiment du Gemel, hein. C'était sorti à l'époque en 2010 chez et 2011 chez Orbit. Vous avez également Kings of Morning en 2011 qui malheureusement qui a jamais été traduit. Donc ouais, la trilogie des Macht, je ne sais pas comment le prononcer. Je pense qu'à mon avis en termes de qualitatif, c'est peut-être celui en tout cas que moi j'aurais tendance à recommander.
Écoute, ouais, c'est vraiment que tu le dis, je suis assez d'accord.
Merci, mon cher. Alors, à la question, j'ai envie d'essayer du Gemel, et je commence par quoi ? Question pour le novice. Nos recommandations de lecture de David Gemel.
Bah, faut lire Légende.
Ah, voilà. C'est simple et efficace comme du Gemel.
Ouais. Bah. C'est même un bouquin que je conseille à des gens qui ont lu très peu de fantasy. Donc voilà. En fait, je pense que il faut commencer par si c'est la fantasy de manière générale qui vous intéresse, il faut commencer par Légende parce que vous allez voir tout de suite si ça vous plaît ou pas. Voilà. Si vous êtes plus, on va dire, j'aime la fantasy, mais j'aime aussi autre chose, par exemple le roman historique ou la mythologie, je conseillerais 3. Je crois que le tome 1, c'est Le Seigneur à l'arc d'argent. Voilà. Et à titre personnel, La quête des héros perdus, si vous aimez les héros un peu vieillissants sur le retour.
Ouais, personnellement, moi j'aurais dit Rigant, si vous êtes amateur de tout ce qui est celtique. Et on en a parlé tout le long de ce podcast, mais l'écho du Grand Champ, Dark Moon et Renégat, donc ça sera les one-shots qu'on vous recommande, bien évidemment.
Ouais, moi je ne recommanderais pas Légende, hein, vous l'avez compris, mais peut-être Dark Moon, j'avais bien aimé ce one-shot. J'avais cité aussi Le Lion de Macédoine, mais c'est vrai que c'est un peu spécial aussi. Donc, et puis finalement, c'est un peu comme Rigant. C'est en plus, ça implique plusieurs tomes. Mais voilà. Après, à voir.
Bien. On arrive à la fin de ce podcast sur ce grand monsieur qui est
dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme, parce qu'il était très grand. Je crois qu'il faisait plus de 2 mètres. On espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à préparer ce podcast et à l'enregistrer également. Si jamais vous avez envie de soutenir lbacking.net, donc le site, nous aider, vous pouvez contribuer par un don sur la plateforme HelloAsso que vous trouverez sur la page d'accueil du site. Voilà. N'hésitez pas également à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est partout. Messieurs, très bonne soirée. Rendez-vous au prochain podcast.
Bonsoir à tous.
Bonne soirée.
Salut tout le monde.
À moi l'aventurière qui doit sauver le monde.